On va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème, évidemment dans l'esprit de, on espère, de la Torah. Alors c'est marqué dans Dvarim là-bas, Alpi Torah Asher Yehucha, selon la Torah qu'ils t'enseigneront, Ve'al Mishpat Asher Yomru Lecha, et selon les commandements, les lois qu'ils te diront, Ta'ase, tu feras. Ne t'écarte pas de leurs paroles qu'ils te diront yamin ou smol, à droite ou à gauche. Ici, la Torah vient expliquer la notion de l'obligation d'écouter les sages. C'est-à-dire que chaque juif, il a une obligation d'écouter les chachamim, les rabbins. Mais cette dimension-là, on va voir, de relation qu'on entretient avec la vérité, c'est une relation générale qu'on entretient avec la confiance. Parce que dans toutes les dimensions qu'on entretient avec l'autre, il y aura toujours une part de confiance qui va être bien vécue ou mal vécue. Alors un degré moindre, ça sera dans la relation, par exemple, qu'on entretient avec ses parents ou avec ses enfants, avec la relation qu'on entretient avec soi-même, le manque de confiance qu'on peut avoir en soi, avec les gens qu'on a en face de soi, est-ce qu'on a vraiment un échange qui est sincère, entier ? Évidemment, avec la relation de confiance qu'on peut avoir avec la vie, et ensuite avec Hachem. Maintenant, on va voir que toutes ces dimensions, en fin de compte, elles sont parallèles. Mais c'est intéressant de voir que quand on prend un point dans la Torah, et qu'on essaye de développer à partir de ce point, tous les points, ils se rejoignent. Et c'est logique, en vérité. J'étais... Quel jour d'aujourd'hui ? Jeudi. Dimanche soir, j'étais à Miami. J'ai fait une conférence et quelqu'un m'a expliqué toute une théorie sur les quarks, c'est un truc en physique, qu'en fin de compte tout l'univers, il forme une seule unité, que les éléments, ils sont en même temps ici, en même temps ailleurs, et qu'un phénomène, il se reproduit au niveau humain, et bien que statistiquement, ça n'a pas de logique. Je lui dis, mais ça, tu sais, tu es en train de te casser la tête pour rien, parce que bon, ils ont mis 2000 ans pour comprendre, les goïms, mais en vérité, c'était évident. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, toute la réalité du monde, elle est un. Si vous regardez au niveau atomique, c'est la même chose. Vous voyez, ici, bon, vous êtes là, moi je suis là, la table elle est là, le poteau il est là. En vérité, on a l'impression qu'on est séparés. Mais si vous regardez la dimension des atomes, eh bien tous les atomes ils sont liés. Là, il y a les atomes de l'air, là, les atomes du poteau, les atomes de la nappe, les atomes de mon corps. Tous les atomes sont liés. Mais alors, qu'est-ce qui relie les atomes ? Eh bien, un champ électrique. Parce que ce champ électrique, il n'est pas séparé d'un atome à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui fait la distance ? Ben quoi, c'est quoi ? C'est le déplacement de la matière dans l'espace. Mais au niveau atomique, ça ne veut rien dire. Parce que dans l'électricité, la vitesse est l'infini. Donc en vérité, dans la matière, d'être ici et d'être là-bas, c'est la même chose. Mais suivi. Alors nous, on appelle ça tzadik qui est sodre là. Le tzadik, il est la base du monde. On dit, Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Parce qu'en vérité, l'univers, il est un. Le problème, qu'est-ce qui fait que l'univers, il est deux, ou trois, ou quatre ? C'est une très grave maladie, d'origine tahitienne, qui s'appelle le MOI. Je ne sais pas si vous avez... C'est le moi. C'est le moi qui rend le monde petit. Parce que je dis moi, mon fric, ma vie, ma maison, ta sœur, ta mère... Les articles possessifs ont créé la distance entre les gens, entre les matières. Mais en vérité, dans l'absolu, il y a un seul. Alors, qu'est-ce qui relie les éléments qui font que tout est lié ? Alors, ce qui relie les éléments, vous avez bien compris, c'est jamais la dimension extérieure. Parce que la dimension extérieure, elle fait que toi, tu as un corps, et moi, j'ai un corps, et toi, tu as de l'argent, et j'ai des intérêts, et tu as des intérêts. Donc, la matérialité, elle nous sépare. Par contre, la dimension intérieure, elle rapproche. Comment on appelle la dimension intérieure qui relie deux éléments extérieurs ? La confiance. La confiance, c'est la dimension intérieure qui relie deux éléments extérieurs. Toi et moi, on n'a rien à voir. Si on est en confiance, ça fonctionne. Il dit la confiance, en latin, ça se traduit confiance, avec foi. La foi, c'est quoi ? C'est la perception de ce qui ne se voit pas. C'est ça la foi. Donc la foi qui relie l'homme avec son Dieu, et la foi qui relie l'homme avec son Fils, et la foi qui relie l'homme avec lui-même. Maintenant, quelle différence entre quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et quelqu'un qui n'a pas confiance en son Fils? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois que dans l'éducation, il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et éduquer l'enfant qui est en toi. Donc, si toi, tu n'arrives pas à avoir confiance en l'enfant qui est en toi, c'est souvent que tu n'as pas confiance à l'enfant. Non, le contraire. Si tu n'as pas confiance dans l'enfant qui est devant toi, c'est le décalage horaire. Oui. Donc, si tu n'as pas confiance dans l'enfant qui est devant toi, c'est souvent que tu n'as pas confiance dans l'enfant qui est en toi. Or, la relation de confiance, ça sera de toute façon une relation transparente, invisible. Comme avec toi, comme avec l'autre. Alors, les gens qui te disent, ah non, mais moi j'ai besoin de voir, j'ai besoin de sentir, c'est des lourdeurs. Parce que même quand tu vois rien. Et même quand tu sens rien. Tu sens l'idée que tu te fais de la chose. Quand tu dis, je me sens bien, c'est dans ta tête. Et quand tu te sens mal, c'est dans ta tête. La peur, c'est un problème psychologique. Et le bien-être, c'est un problème psychologique. Il y en a 2 minutes avant de mourir, ils ont une pêche du tonnerre. Et alors, ils sont mourants. Et l'autre, ça fait 18 ans qu'il a un cancer. Et ben, au prochain, il fait son footing. Tu dis, ah, je comprends rien, que tu comprends rien. T'as raison de rien comprendre. Là, tu commences à comprendre. Cette logique-là, ça veut dire quoi? C'est que la relation de confiance, maintenant on a compris, c'est pas seulement une perception psychologique du relationnel qu'on a avec les autres, c'est avec tous les éléments. Alors, étant donné que tout l'univers, c'est un seul ensemble, et que toute la Torah, elle a été créée à partir de l'univers, que le contraire, que l'univers a été créé à partir de la Torah, donc si je prends un passage dans la Torah, je peux retrouver tout l'univers. Ça va? Facile pour vous ou vous êtes gêné? C'est bien. Alors voilà, j'ai choisi un passage dans la Torah. C'est marqué ici que selon la Torah qu'ils t'enseigneront, on parle des sages, et les commandements, les jugements qu'ils te donneront. Taasé, ainsi tu feras. Et la Torah elle rajoute, Lotasur minadava, asher yagidulecha, ne t'écarte pas de ce qu'ils te diront à droite ou à gauche. Cette expression elle est bizarre. Déjà, l'otassour, ne t'écarte pas, ça veut dire que c'est un interdit de la Torah, d'accord? Ne t'écarte pas des paroles des sages. Et qu'est-ce qu'on dit? Yamin ou smol, ni à droite ni à gauche. Il demande des commentaires. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce mot-là? Ça veut rien dire. Ne t'écarte pas, ni à droite ni à gauche. Oui? Comme si on était sur une route et qu'à gauche il y avait un ravin et à droite il y avait un ravin. On te dit, fais attention. Ne t'écarte pas, ni à droite ni à gauche. Exactement pareil dans la religion. À droite il y a un ravin, à gauche il y a un rabbin. C'est pas grave. Bon, alors. Non, ils sont profonds, les rabbins, en général. C'est ça qu'on les appelle des rabbins. Oui, c'est pas grave. Ici, c'est marqué une chose énorme. C'est marqué, tu t'écartes pas ni à droite ni à gauche. Mais ils disent, les chachamim, une chose incroyable. Il dit, pourquoi la Torah t'a dit, ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche? Il dit, même s'ils vont te dire sur la droite que c'est la gauche et sur la gauche que c'est la droite. Ah, tu dis, ah, c'est exagéré. Comprenez ou non? C'est compliqué. Et moi, de ma petite expérience de quelques centaines de milliers de personnes, j'ai toujours été étonné. Un bon juif, ouais, il aime le travail, il aime les efforts, il aime l'argent. Il se bagarre pendant des heures et des heures, des années pour avoir cet argent. Après, il a un conflit d'argent avec quelqu'un. Deux juifs, ils se bagarrent. C'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Ils vont chez le rabbin. Ils vont, on va demander au rabbin. Ils s'assoient devant le rabbin. Un, il défend sa cause. L'autre, il défend sa cause. Maintenant, lui, ça fait 10 ans qu'il se bat pour cet argent. Le rabbin lui dit, écoute, d'après la loi, c'est pas ton argent. Et le juif, il dit, d'accord. D'accord. Toujours, je m'étonne. Je dis, mais type, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. En 2 minutes, il accepte. Pourquoi il accepte? Mais il est fou, ce mec-là. Il devrait casser la figure au rabbin. Non, 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 non. Il accepte. Il dit, c'est le Hémet, c'est le Hémet. Alors, le Hémet, ouais, en même temps, ça tue. La vérité, en même temps ça tue, en même temps ça soulage. Parce que émettre, on dit en français, tu émettes, c'est-à-dire tu es mort. Le émettre, ça tue, la vérité, ça tue. Oh, c'est dur ce que vous dites, c'est dur, mais c'est vrai. Le mensonge, ça fait plaisir. Mais on n'arrive pas à vivre avec. Et quand tu dis la vérité, d'un côté tu sais que tu vas prendre sur la figure, d'un autre côté ça te soulage. Tu dis, écoute, maintenant je l'ai dit, voilà, je l'ai dit. C'est très difficile. Combien de fois des messieurs font des bêtises? Ça peut arriver. Ils sont obligés de le dire à leur femme. Je ne peux plus vivre avec ça, il faut que je le dise. Mihmar, maintenant que tu l'as dit, tu vas bien, mais elle est le mal. Oui, souvent les hadan kala. Moi, toujours, je dis aux jeunes filles, écoute, ça peut arriver que tu as un passé. Le garçon, il peut avoir un passé, toi aussi, tu peux avoir un passé. Il va te poser des questions. Vous savez comment ils sont? Quand c'était le premier ou là, le deuxième, avec qui qu'est-ce qui s'est passé? Moi, toujours, je dis, ne dis rien. Mais vous savez, il me pose des questions, il veut savoir, il veut tout savoir. Il me dit, non, mais c'est rien comme ça, c'est rien comme ça. Je dis, ferme-la. Parce que quand tu vas te salir à ses yeux, il dira, c'est plus comme avant, moi, je te voyais pas comme ça, je te croyais pur. Moi, mais elle n'est pas à 100% pure. Mais toi aussi, Blainara, tu n'es pas vraiment pur. Oh là, d'accord. Chacun, il a eu son passage dans les bains de sable mouvant à la sortie des égouts. Chacun, il a. Bien que c'est bon pour la peau, mais il ne faut pas en abuser non plus, vous voyez. La Thérèse. Il dit, mais toi, tu vas te salir aux yeux de ton khatan. À quoi il faut mentir? Eh bien, comme lui, il ment qu'il croit que ça lui fait rien, toi, tu mens quand tu lui dis qu'il s'est rien passé. Parce que de toute façon, après, il va te dire, ah, alors c'est comme ça, alors je croyais que t'étais, alors je croyais. Pourquoi tu as posé la question? Ferme-la, tais-toi. Elle est comme elle est, toi aussi, elle a un passé, mais toi aussi, t'as un passé, tout le monde a un passé, qu'est-ce qui n'a pas de passé? Ça va? Tu dis, alors, tu veux savoir le Hémet, et tu le supportes pas. Tu veux la vérité, mais tu l'assumes pas. Ah, tu veux dire, on va pas recommander le mensonge non plus. Alors maintenant, ça pose un problème. Maintenant, ici, c'est marqué qu'un homme, il doit écouter les sages. Et ni aller à droite, ni aller à gauche. Il dit, mais le problème, c'est quoi? On a besoin, hein, d'avoir un conseil quand on a un doute. Le doute, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire la personne. Alors, comment ça s'appelle un doute dans la Torah? Safek. Ça, safek. Safek, on a une question, on a un problème, on a un doute. On a un doute dans la halakha. Tu vas chez le rabbin, tu dis, écoutez, le poulet, il a une patte cassée, je ne sais pas. Est-ce que c'est cassé avant la shrita, après la shrita? Je veux savoir si c'est caché ou non. J'ai une goutte de lait, la Goya, elle a pris la bouteille de vin, elle l'a remuée. Est-ce que je peux toucher? Ma fille, elle a pris le biberon, elle a fait comme ça, au-dessus de la dafina. Il y a des gouttes qui sont dedans. Alors, je peux manger cette dafina ou non? Je vais voir le rabbin. J'ai un safek. Safek, j'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, le safek, il faut répondre au safek. Il faut répondre à la question. Alors, c'est cachère ou c'est pas cachère? C'est permis, c'est interdit? Tu sais pas, tu es marié. Tu as trouvé une petite tache de sang, tu dois aller voir le rabbin. Tu dis, mais j'ai honte, c'est difficile. En plus, ça fait déjà 3 semaines qu'on est séparés. Encore une tache, encore une semaine. C'est dur. Est-ce que tu vas avoir la crainte de Dieu de dire, je vais quand même demander? Ou tu as la crainte de la tête de ton mari, tu vas dire, je dis rien. Et c'est mauvais, parce qu'aujourd'hui c'est une petite tache, un jour c'est toi qui vas être une grosse tache. C'est pas grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as la crainte de Dieu, tu as peur. Tu vas chez le rabbin, il va t'expliquer. C'est quoi cette dimension? Une fois, il y avait une dame, elle avait des taches comme ça. Elle avait honte de demander au rabbin. Alors, une femme, elle lui a dit, écoute, va lui demander. Elle a été. Va lui demander, elle a été. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, j'ai mes règles, après j'ai une petite tache, encore une petite tache, après ça tarde, après ça tarde, ça tarde. C'est ce qu'il a dit le rabbin. Il a dit, madame, cette couleur-là, c'est pas une couleur normale. Allez faire un examen. Elle a dit, non, non, mais je prends du faston, du bataton, du chlulaton. C'est pas la peine, j'ai vu avec ma gynéco. Le rabbin, il lui a dit, madame, ce sang-là, il n'est pas une couleur normale. Allez voir le rabbin. Il l'a sauvée d'une tumeur. Elle était en train de mourir. Ils n'avaient rien vu. Ils l'ont sauvée. Va chez le rabbin, commence pas à faire la maline. C'est marqué ici que le safek, le doute, il t'oblige à définir, à répondre. Alors maintenant, il y a des lois dans la Torah, par exemple, ça s'appelle le rov, la majorité. Vous savez, on a une question, on a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? La Torah te dit, va d'après la majorité. Acharei rabim le'atot. On va d'après la majorité. Là-bas, il y a une bagarre dans les chachamim pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, j'ai un doute, d'accord? J'ai un doute, je ne sais pas. Par exemple, vous trouvez un bout de viande dans la rue, mais il y a 9 magasins pas cachers et un magasin cachère. Ce bout de viande, il vient d'où? Lui-même, il peut être ou cachère ou taref, 50-50. Mais il y a 9 magasins pas cachères. Alors qu'est-ce qu'on dit, nous? Eh bien, sûrement, il vient d'un magasin pas cachère. Ah bon? Dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Le bout de viande, il est ou cachère ou taref. Il ne peut pas être à 90% taref. Tu dis, oui, mais dans la masse des événements qui déplacent de la viande dans la rue, il peut arriver plus de chances qu'il vienne d'un magasin pas cachère. Alors, il pose la question, il demande. Quand on dit qu'on va d'après le rov, quand on décide d'après la majorité dans un doute, est-ce que ça s'appelle un birou ou ça s'appelle un silouk? Je vous traduis. Est-ce que ça veut dire qu'on se débarrasse de la question en disant, bah, écoute, va d'après la majorité, mais c'est arbitraire, en vérité ça n'a aucun sens? Ou alors je dis, non, la majorité, elle définit les choses. Aujourd'hui, on va d'après beaucoup la majorité aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus d'opinion politique, il n'y a que des statistiques. Même les gens, ils attendent des statistiques pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent penser. Ils ont peur. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'ils disent les statistiques? Ils disent, je ne sais pas, ils regardent la majorité, on va voir. C'est incroyable. Ouais. Donc c'est l'envers du problème. Qu'au lieu d'avoir une opinion, les gens, ils attendent qu'on leur explique c'est quoi l'opinion qu'ils doivent avoir. Donc c'est plus une opinion. Donc c'est quoi une étude d'opinion? Parce que l'opinion, elle attend d'avoir une opinion. De l'opinion, d'ailleurs. Et cette logique, c'est quoi? C'est que des fois, quand tu as un doute, tu as deux manières. Soit tu vas te mévarer, tu vas éclairer, tu vas trouver le problème. Soit tu vas te débarrasser en disant, eh bien, écoute, arbitrairement, la Torah elle a dit on va d'après la majorité. On aurait pu dire on va d'après la minorité. Si vous allez me dire, mais ça c'est très abstrait. Mais dans la vie, c'est pareil, je vous signale. Il y a des gens, quand ils arrivent devant un problème, ils foncent. Au moment de réfléchir, ils ne veulent pas réfléchir. Il y en a comme ça, ils arrivent à un carrefour, ils voient le carrefour, ils ont peur. Comme ils ont peur, ils accélèrent. Mais ah non, freine. Oui. Tu leur, il y a un problème. Bon, il y a un problème avec ton fils. Bon, il faut qu'on parle. Non, 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 allez, allez, allez. Je m'en fous. Hein, fais ce que tu veux. Mais non, c'est pas maintenant qu'il faut se débarrasser. Alors avant, dans les trucs qui n'ont aucun intérêt, tu restes pendant 3 jours à réfléchir. Est-ce que je fais comme ça? On va chez cette voiture, on va chez celle-là. On part en vacances à la mer ou à la montagne. Mais quand il s'agit de quelque chose qui te concerne, sérieux, viens, on parle pour ton fils. Viens, qu'est-ce qu'on fait pour cette fille? Alors, elle est bien pour ton fils ou non? Alors, on garde cette école, on fait l'alia, on s'en va. Oh, écoute, fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Moi, je te suis. J'ai pas envie de réfléchir. Donc quand tu as un doute, tu as deux solutions. Soit tu réfléchis, soit tu te débarrasses. Alors quand la Torah elle a dit qu'on va d'après la majorité, est-ce que c'est une manière arbitraire de se débarrasser du doute? Ou non? C'est quelque chose qui prouve. Parce que le Rav, il est mévarère. Le Rav, il est clair. Et c'est vrai. Par exemple, il y a un principe naturel. On dit, Rav behemot elan trefot. La majorité des bêtes... ne sont pas très fortes, ne sont pas atteintes d'une maladie mortelle. La majorité des taureaux ou des vaches sont, ouais, sont pas. Maintenant, il y en a qui sont malades, mais les trois quarts ne sont pas malades. Donc, quand on fait la shrita, oui, on pense que la bête elle est bonne. Ah, maintenant tu sais que si la bête elle a par exemple le cou troué, ouais, imagine la bête elle a eu un trou avec un clou, elle est taref. Maintenant, peut-être que toi, au moment où tu as fait la shrita, tu as coupé le cou exactement là où il y avait le trou. Alors comment tu vas savoir toute ta vie, peut-être t'as mangé ta ref? On dit non. Rov behemot elan trefot. La majorité des bêtes ne sont pas ta ref, ne sont pas malades. Donc, on peut les manger. Ce rov là, cette majorité, c'est une majorité qui vient pour me débarrasser d'un doute ou qui m'éclaire sur la majorité, sur la réalité. Regardez par exemple. Vous prenez un caillou, vous le jetez en l'air. Faites-le 1000 fois. Il y en a combien qui retombent? Plus de la majorité. D'accord? C'est normal. Donc c'est une loi qui définit la réalité. On dit la majorité des mourants meurent. Êtes-vous au courant? La majorité des mourants meurent. Ça vous dérange? Mais oui, c'est évident. Alors pourquoi tu ne partages pas l'héritage avant que la grand-mère elle meure?
Parce qu'elle
ne veut pas mourir. Ah, c'est une tête dure. Elle ne veut pas. Laisse la bague, enlève ta main. Pourquoi tu regardes mes chaussures comme ça? Bon. Heureusement qu'on ne partage pas du vivant des morts, du vivant des mourants. Dis pourquoi? Bien que la majorité des mourants meurent, ouais, ça veut dire que cette majorité-là, c'est une majorité qui vient délimiter, définir les choses. Vous me suivez ou non? La majorité des gens qui rentrent dans une piscine sortent mouillés. Mais c'est des majorités qui sont évidentes. Mais cette évidente, elle vient d'où? Elle vient de la majorité. C'est parce que pas. Tu as vu par expérience que les trois quarts des gens qui rentrent dans les piscines sortent mouillés, que, sauf les acteurs américains, qu'eux, ils sortent avec un brushing. Mais les trois quarts des gens, quand ils sortent de la piscine, ils sortent mouillés. Ils disent, c'est exactement pareil maintenant. Mais alors, cette loi-là, elle te dit que le rov, la majorité, elle définit les choses. Oui? Mais il y a aussi une minorité. Ça va? Il y a aussi une minorité. Comme les gens, ils te disent, tu dis, bon, allez, va te marier, rencontre quelqu'un, prends une fille intelligente, sympathique, et avec de la crainte de Dieu, et épouse-la. Ah, non, 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 non. Elles sont toutes tordues en ce moment, elles voient que l'intérêt, elles veulent une bonne situation, elles veulent 4 voitures, elles veulent avoir des actions, des gens en bourse avant le mariage. Et les garçons, eux, ils veulent que des mannequins, que des beautés, que des... Moi, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ah, mais chérie, vous n'avez pas des mannequins qui ont fait des chouva? Je dis, j'ai un catalogue, mais il est sous microfilm. 20 000 euros pour le regarder, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont malades. Ça veut dire quoi? Tu veux dire, l'homme, il veut l'extérieur et la femme, elle veut l'intérieur. Il me dit, oui, mais elles sont toutes comme ça. Et puis, vous savez, dans la communauté, je dis, mais Yahmar, tu te maries avec un statistique ou tu te maries avec une personne? On va dire pire. Maintenant, il y en a 999 qui sont tordues. Il n'y a pas une qui est bien. Eh bien, celle-là, tu vas l'épouser. C'est-à-dire, toi, tu regardes la majorité. Pourquoi tu ne regardes pas la minorité? C'est-à-dire, c'est une manière de vivre. C'est comme les gens, tu leur poses une question, ils te répondent au pluriel. T'as jamais remarqué ça? Tu leur dis, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, ouais, mais nous, on n'a pas l'habitude de... on dit que... les gens me disent que... Mais toi! Oui, mais tu sais, en fin de compte, c'est quand même une... C'est pas évident pour tout le monde. Ils sont bizarres, les gens. Tu leur parles au singulier, ils te répondent au pluriel. Pourquoi? Parce qu'ils sont singulièrement pluriels. Ça s'appelle en français « Monsieur tout le monde ». Or, monsieur tout le monde, c'est monsieur personne. J'ai une question de toi, réponds-moi, toi. La steppe algérienne. Il fonctionne selon la majorité. Or, la majorité, c'est une masse sans forme. La Torah dit le contraire. Toi, tu es une personne propre. Alors, est-ce que toi, tu es une minorité négligeable? Oui. Ou non, tu fais partie d'une majorité confuse. Tu dois être quelqu'un. Et dit la Torah, elle a dit, maintenant, quand on a un doute, on va d'après la majorité. D'accord? Ça, c'est la majorité. Mais quand on n'a pas de doute, est-ce qu'on va d'après la majorité? Je vous dis une halakha. Vous êtes dans une boucherie taref. Il y a 260 tonnes de viande taref. Ouais. Mais il y a un morceau de viande cachère. Et vous le connaissez, ce morceau. Il est là devant vous. Et vous le regardez depuis tout à l'heure. Et vous ne l'avez pas quitté. Quelqu'un vient et vous dit, écoute, tu es dans une boucherie taref. Avec 260 tonnes de viande taref de porc. Donc la viande est taref. Il dit non, celle-là, je ne l'ai pas quittée des yeux. Ça s'appelle Edechan Neeman Beisurim. Un témoin, il est, on le croit. Normalement, il faut deux témoins dans la Torah. Mais dans les interdits, quelqu'un il peut dire, moi, je l'ai vu ce morceau, il est cachère. Son témoignage est valable. Oui? Donc tu vois bien que la majorité, elle n'a aucun sens. Tu sais, tous les Tunisiens, celui-là, je le connais. Tous les Marocains, non, ne me dis pas tous. Moi, celui-là, ça fait 20 ans que travaille avec moi, il est honnête. Celui-là, pourquoi tu fais des généralités? Pourquoi tu es intéressé à faire des généralités? Pourquoi tu veux aller selon la majorité? Dis la majorité, elle ne t'aide que quand tu as un doute. Quand tu n'as pas de doute, tu n'as pas besoin de la majorité. Comprenez ou non? On raconte une fois qu'il y a un curé, ou un évêque, ou là. Il est venu voir un grand rabbin. Il a dit, mais je ne comprends pas. C'est écrit dans la Torah qu'il faut aller selon la majorité. La majorité des hommes ne sont pas des juifs. Et la majorité des croyants sont des catholiques à l'époque. Alors, puisque nous sommes plus nombreux que vous, vous devriez aller d'après la loi des catholiques, puisque vous allez selon la majorité. Adam Leha. C'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu, le rabbin? Il a dit non. Quand est-ce qu'on va d'après la majorité? Quand on a un doute. Mais quand on n'a pas de doute, on ne va pas d'après la majorité. Vous comprenez? Tu viens chez moi, tu me dis, tu sais, ta femme, elle a dit ça. Tu peux dire ça sur toutes les femmes. Mais ma femme, je la connais. Je la connais très bien. Si je te dis qu'elle ne l'a pas dit, elle ne l'a pas dit. Ah, mais on ne sait jamais. Il n'y a pas d'on ne sait jamais. On sait toujours. Parce que tu as construit avec quelqu'un, tu as évolué avec quelqu'un, tu as aimé quelqu'un, c'est fini, tu connais. Elle ne fait pas partie de la majorité. Par contre, le contraire, je l'ai vu des milliers de fois. Je dis, monsieur, qu'est-ce que votre femme en pense? Écoutez, j'en sais rien. Bon, en général, les femmes... T'es un mec dangereux, toi. Je te pose une question sur ta femme, tu me dis, je sais pas. Je te pose une question sur ton mari, tu me dis, je sais pas. Mais ton mari ne fait pas partie de la majorité. Sinon, t'en as épousé combien? C'est lui. Les gens, ils se connaissent tellement peu, je crois que les enfants, ils les ont fait par Wi-Fi. Ils se connaissent pas. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? De quoi elle a peur? Vous savez, bon, on est là à côté de l'autre. Heureusement qu'on a un téléviseur en commun, sinon vraiment... Ils regardent la même chaîne, c'est tout ce qu'ils ont de commun. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et cette dimension-là, elle veut dire que la majorité, elle définit la réalité des choses. Et dire, si c'est comme ça, hein, de la même manière quand il y a un Beit Din, vous savez, il y a un tribunal de 23 juges. On a besoin que 13 juges ils disent un point de vue pour suivre ça. Ça s'appelle la majorité. Si on a 70, on a besoin que la majorité, elle dise. Maintenant, moi, je pose une question idiote. On a dit que quand on a un doute, on va d'après la majorité. Maintenant, la majorité, on peut comprendre d'une manière. soit on va d'après la majorité parce que la majorité elle définit la vérité, soit on va d'après la majorité parce que c'est une manière de se débarrasser. La Torah elle aurait pu dire va selon la minorité, elle a dit va selon la majorité, mais c'est pareil, vous me suivez ou non? Ça va? Maintenant, dans un Beit Din, les rabbins, ils sont intelligents. Ils ont réfléchi, on a posé une question, ils étaient 23, ils ont réfléchi. Il y en a 13 qui ont dit que le type il doit mourir, et il y en a 10 qui ont dit qu'il ne doit pas mourir. Quand les 13, ils ont dit qu'il fallait qu'il meure, ou qu'il soit condamné à rembourser ou n'importe quoi, oui? Est-ce que le fait qu'ils soient plus nombreux, c'était plus vrai? Ou non, c'est juste une manière de trouver une solution, parce qu'on ne va pas rester 10 000 ans à discuter. Ça va? Donc est-ce que la vérité, elle dépend du nombre ou non? Attention, c'est ambigu ce que vous dites. C'est que vous pensez que quand la majorité des gens réfléchissent, ils ne pensent pas forcément vrai. C'est-à-dire maintenant, il se pose un problème de fond. Est-ce que la vérité, c'est une notion absolue ou est-ce que la vérité, c'est une notion relative? C'est un problème. Parce que là, on est en train de parler de philosopher. Mais quand il y a 11 milliards d'euros en jeu, là tu dis, bon, je t'en prie, ton fric, mon fric, c'est relatif. Tu te détends là, faut qu'on sache. Les papiers, les avocats, les preuves. Non, je t'en prie. Allez, va travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu gagnes le procès, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer, va travailler, va regagner 11 millions et moi je prends cela. Non. Je veux savoir la vérité. D'accord? Tu as une ambiguïté sur ton mari, tu veux savoir la vérité. Une ambiguïté sur ta femme, tu veux savoir la vérité. Pourquoi? Je t'en prie. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, il me prend dans les bras. Il y a des photos avec lui. Mais pff, ça veut rien dire. Tu sais qu'on n'est pas orthodoxe. Je veux dire, faut être cool. Pas parce que je l'embrasse sur la bouche que j'ai des intentions mauvaises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu es une baha ou quoi? Comment tu embrasses sur la bouche un type que tu connais pas? Non, c'est une blague. Mais dis bon, on le fait le temps d'une photo. Bon, je l'ai fait. Bon, finalement, à la place de la photo, il a fait un film. Bon, T'es marié, toi? Oui, monsieur. La mairie? Oui. La synagogue? Oui. T'es sûr que t'es pas trompé de jour le jour où t'es venu? Pas trompé de jour? T'es marié vraiment? Comment tu veux faire une chose pareille? Non, mais. Tu vois ça? C'est que la vérité de l'un, c'est pas la vérité de l'autre. Chez l'un, elle est absolue, chez l'autre, elle est relative. Ou t'es marié, ou t'es pas marié. Non, mais non, je te pose la question. Ou t'es marié, ou t'es pas marié. C'est pas grave. Ou tu dis la vérité, ou tu mens. Ou tu voles, ou t'es honnête. Tu dis, bon, tu sais, le mensonge, c'est quelque chose d'artistiquement flou. C'est ça, un menteur. Bon, l'honnêteté, je veux dire, faut pas être non plus. T'es un voleur, toi. Non, t'as des mots. Ou t'es un homme politique, enfin, des deux, quoi, c'est pas possible. Comment tu peux m'embrouiller comme ça? C'est marqué ici. Il dit la vérité, elle est absolue ou la vérité, elle est relative. Il y en a un problème. C'est écrit dans la Gemara de Mamutia, une histoire incroyable. Il y avait Rabbi Eliezer avec Rabbanan. Ils étaient en discussion pour fixer une loi. Il y avait un faux, bon, une histoire compliquée de Touma. Rabbi Eliezer, il a dit une chose et les rabbins qui étaient en discussion avec lui, ils ont dit le contraire. Donc ils étaient la majorité contre lui. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Eliezer? Il a dit, si j'ai raison, le ciel va le prouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des miracles. La rivière, elle descend. D'accord? Il y avait une rivière à côté, elle descendait. Il a dit, voilà, cette rivière, elle va prouver que j'ai raison. La rivière, au lieu de descendre, elle s'est bien montée. D'accord? Il a dit, les arbres, ils vont prouver. Ouais, les arbres, ils ont commencé à se pencher. Il a dit, les murs, ils vont prouver. Ils étaient dans une synagogue, imaginez-vous maintenant. On est là, les murs, ils font 20 mètres de haut, et les murs, ils ont commencé à se pencher comme ça. Genre, ils vont tomber sur ta tête. Les rabbins, ils ont dit non. Tu peux faire tous les miracles que tu veux. Attends, pire encore. Après, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Rabbi Eliezer, il a raison. La voix céleste, c'est qui a parlé? C'est Hachem. De vous à moi. S'il y en a un qui connaît la Torah, c'est bien celui qui l'a écrit. C'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il est venu, il a dit Rabbi Eliezer, il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shua? Il s'est levé, il a dit Lo Bashamayim I. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est sur la terre. C'est les hommes qui décident, c'est pas le bon Dieu. Oh là là! Ça fait peur, ça. Maintenant, à votre avis, la vérité de Dieu, elle est relative ou absolue? Absolue. Et celle des hommes, elle est relative ou absolue? Comment on va faire maintenant? Alors, imaginez la situation. Rabbi Eliezer, il a dit une chose, et la Bat Kol, la voix céleste, elle a dit comme lui. Mais la majorité des gens, ils ont dit le contraire. Maintenant, il y a les rabbins majoritaires contre la minorité. Mais la Torah, elle a dit qu'il faut aller d'après la majorité. Mais bon Dieu, il a dit que la vérité, elle est comme Rabbi Eliezer. Comment on dit en anglais? Chlet. Mais la Gemara, elle a dit, on n'écoute pas la voix céleste. On écoute la Torah. Et la Torah, elle a dit, on va d'après la majorité. Ça va jusque-là? Vous êtes clair? Il y a une autre Gemara à un autre endroit. Elle dit, il y avait une grande discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Grande discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Pendant 2 ans et demi, ils se sont bagarrés. Vous êtes fatigué au bout de 2 heures de cours. Imaginez 2 ans et demi. 2 ans et demi, ils se sont bagarrés. Au bout de 2 ans et demi, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, la halakha, la loi est comme Beit Hillel. Ça va? On a décidé de faire la loi comme Beit Hillel. Beit Hillel, il y avait deux grandes écoles. Une école qu'on s'appelle la maison de Hillel et une école qu'on appelle la maison de Shammai. Alors il demande le Tosfot. C'est bien, ça vous donne l'occasion de faire un Tosfot. Une fois dans la vie, c'est bien. Écoutez bien. Il a dit le Tosfot. Tosfot, c'est un commentaire du Moyen-Âge. Écoutez, n'ayez pas peur. Ça ne s'attrape pas. Il a dit le Tosfot. Comment ça se fait que pour Rabbi Eliezer, on n'a pas écouté la voix céleste? Et pour la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, on a écouté la voix céleste. Hein? Égalité? Mais égalité? Entre qui et qui? Non, justement. Beit Hillel, ils étaient plus nombreux que Beit Shammai. Écoutez ce qu'il répond Tosfot. Tosfot, il est dans Psachim, Daf Kuf Tet Zayin. Si ce soir vous voulez vérifier, mesdames, ou là, messieurs, c'est un Tosfot très intéressant, il faut le faire avant de mourir, il est très beau. Il dit là-bas, hein, pas obligé de mourir le lendemain, mais on peut le faire avant. Il dit le Tosfot, il dit, on n'écoute jamais la batkol, on n'écoute pas la voix céleste. Mais quand la batkol, la voix céleste, elle va comme la majorité, alors on écoute la voix céleste. Mais quand la batkol, elle va pas, elle va comme la minorité, on n'écoute pas la voix céleste. Ça va? Ça vous rassure? N'ayez pas peur, oui ou non? Encore une fois, il y avait la majorité et la minorité. La voix céleste, elle a dit comme la majorité. Et dans ce cas-là, on écoute la voix céleste. Mais si la voix céleste, elle va contre la majorité, comme par exemple avec Rabbi Eliezer, on va pas d'après. Elle était comme la minorité, la voix céleste. Alors on va pas. Ça va? Il demande Tosfot, il dit, mais je comprends pas. Si la majorité, c'était Beit Hillel, pourquoi on a eu besoin d'une voix céleste pour savoir c'était quoi la vérité? T'as compris la question? Puisqu'on sait déjà qu'on va d'après la majorité, on n'avait pas besoin d'une voix céleste pour nous dire qu'il faut aller d'après Beit Hillel, puisque Beit Hillel était la majorité. Écoutez ce qu'il répond Tosfot. Je vais finir avec le pile-poule, je vois que ça vous fatigue, mais c'est dommage. Pour une fois que vous étudiez. Alors, il dit Beit Hillel, Tosfot, il dit une chose incroyable. Il dit, c'est vrai que la voix céleste, elle était selon la majorité. Mais Beit Shammai, Beit Hillel eux-mêmes, qui étaient la majorité, ils avaient un doute. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient la majorité. Mais ils savaient que Beit Hillel, qui était la minorité, ils étaient plus sages qu'eux, ils étaient plus intelligents qu'eux. Alors maintenant, ils ont un problème. Si moi, je sais, on est 15, toi, t'es seul. Mais nous, on sait que toi, t'es plus intelligent que nous. Alors, on sait qu'on va d'après la majorité. Mais moi-même, qui représente la majorité, j'ai un problème. Parce que je sais que toi, la minorité, t'es plus intelligent que moi. Alors, est-ce que je dois aller selon l'intelligence? Ou est-ce que je dois aller selon le nombre? Adam Lecha. Hein? Selon l'intelligence ou le nombre? C'est pas clair, hein? Oui, vous avez raison, ils se sont bagarrés des années là-dessus. C'est important. Mais ça dépendait de ce qu'on a dit avant. Est-ce que quand on va d'après la majorité, c'est pour éliminer mon doute ou c'est pour éclairer? Si c'est pour éclairer le problème, alors ça s'appelle chercher la vérité. Mais si c'est pour me débarrasser du problème, je m'en fiche que ce soit vrai ou faux. Parce que ce qui compte, c'est de sortir du problème. Alors on t'a dit va d'après la majorité. Maintenant que la majorité soit plus bête et plus intelligente, qu'est-ce que ça me change à moi? Ce qui compte, c'est que j'ai une règle. Parce que s'il n'y a pas de règle. Imaginez-vous, il n'y aurait pas eu la règle de la majorité. Imaginez, il n'y a pas écrit dans la Torah, on va d'après la majorité. Vous savez ce qui serait passé? Vous savez ou non? Eh bien, chaque juif, il aurait fait sa Torah. Il va me dire, qui dit chauve, je vais vous écouter. Vous, les Tunisiens, vous comprenez rien. Vous, les Marocains, vous avez ça. Et vous, les Ashkenazis, mais vous, et vous, les religieux, et vous, les Baalei Tchouva, et vous, les rabbins, et vous, les... Chacun, il aurait fait sa petite Torah personnelle. Ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été... 14 millions de juifs, 14 millions de Torah. Chaque Torah, personnel, Torah, ce que tu veux. C'est très grave. Déjà qu'avec une seule Torah, vous avez vu tous les mouvements qu'il y a. Et chacun, il est convaincu que l'autre, il n'a rien compris. Les chassidim, ils disent que les gens des yeshivot, ils ne savent rien. Les sfaradim, ils croient que les ashkenazim, ils ne comprennent rien. Les ashkenazim, ils croient que les sfaradim, c'est des arabes. Les autres, ils pensent que les autres... Allez, ça, c'est avec une seule Torah. Imagine, on en a une chacun. Mais je ne te connais même pas. Mais qui tu es? Tu manges les boulettes d'abord? Non, tu es un goy. Et toi, tu manges le strudel. Strudel, mazé strudel. Mais faut dire, c'est... C'est Pologne. Et d'un autre côté, au fond, de vous à moi, ne vous vexez pas, quel point commun avons-nous avec un juif d'Ouzbékistan? Voilà. On ne mange pas la même chose que lui. On ne parle pas, on n'a pas le même humour, on n'a pas la même approche, on n'a rien à voir. La seule chose, point commun, c'est que quand tu fais Kaddish, il répond Amen. Quand tu fais le Shema, il dit Baruch Shem, qui vole ma photo, c'est le seul point commun qu'on a entre les juifs, c'est la Torah. Tout le reste, aucun rapport, je te dis jamais, mais tu le vois, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec lui, moi? Mais rien, rien. L'autre, il est grec. L'autre, il est, je sais pas moi, il est de San Francisco. Tu les mets les deux, tu dis, ils vont se marier les deux, c'est pas possible. Comment tu vas faire un café au lait avec un steak qui flotte au milieu? Qu'est-ce que c'est cette cuisine? Ça n'a aucun rapport. Les goûts et les couleurs. Ben, c'est exactement pareil. Si on dit que la Torah, elle a demandé d'aller d'après la majorité. On a dit que cette majorité, elle permet de quoi? De décider quoi faire. Mais est-ce que cette majorité, elle vient pour définir les choses et pour éclairer les choses? Ou est-ce que cette majorité, elle vient seulement pour se débarrasser du problème? Il dit, mais l'approche dans la vie, elle est exactement la même. Est-ce que toi, tu cherches à comprendre ce qui t'arrive? Ou est-ce que toi, tu veux te débarrasser de ton doute? De vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Le nombre de gens qui réfléchissent dans ce monde, ils ne sont pas nombreux. Les trois quarts des gens, ils exécutent. Travaille, fais la bouffe, prépare ton Shabbat, va paye, prends le client, fais sortir le client, prends la douche, prends le métro, mets ton ticket. Quand est-ce que tu réfléchis? Jamais. Tu exécutes. Si tu dis, tu sais, il y a un problème, viens, on va s'asseoir. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de fois des gens, ils disent, bon, allez, écoutez, hein, ça va, j'ai un problème, bon, d'accord. Ma femme vous a parlé, mon mari vous a parlé, bon, d'accord, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, je sais pas ce qu'il faut faire. Il me dit, ah bon? Mais c'est vous le rabbin? Moi, je sais pas. Il dit, mais vous savez au fond? Oui, je sais. Alors, dites-le moi. Non. Pourquoi? Parce que Dieu t'a posé la question à toi. Ma réponse à moi, elle n'est pas adaptée à toi. Pour que ma réponse à moi, elle soit adaptée à toi, il faut qu'on ait le même problème tous les deux. Mais si moi, je ne comprends pas comme toi, en vérité, on n'a pas le même problème. Alors maintenant, il se pose une question. Est-ce que Dieu, il nous donne des problèmes pour qu'on trouve des solutions? Ou est-ce que Dieu nous donne des problèmes pour qu'on utilise des problèmes? Maintenant, nous, quand on a un problème, on veut vite se débarrasser du problème en trouvant la solution. Mais, Jean-Marc, le problème, c'est ce qui te fait grandir. Mais la solution, c'est ce qui t'empêche de grandir. Donc, si tu es pressé de trouver la solution, Dieu, il va t'obliger de te renvoyer le même problème jusqu'à ce que tu acceptes ton problème au lieu de t'en débarrasser. Tu as suivi? Parce que le problème, il te fait grandir. Et nous, on a peur. On dit, oh, j'en ai marre. Oh, j'ai vu aussi. Oh, Hadou Shalom. Mais comment tu vas grandir? Donc quand tu as un problème, moi d'abord je vais être sûr que tu as bien compris ton problème pour qu'on aborde la solution. Parce que tant qu'au fond tu n'as pas compris ton problème, si je te donne la solution, je peux te garantir que dans 2 jours, tu auras le même problème à nouveau. Et combien de fois les gens ils te disent, Rabbi Chitrit, pourquoi j'ai toujours les mêmes problèmes? Je dis, mais parce que tu redoubles. Et c'est quoi un redoublant? Un redoublant, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les exercices de cette année. Donc on lui redonne les mêmes exercices l'année d'après. Maintenant, toi, ton couple, ça fait 10 ans qu'il a les mêmes exercices, ça n'a pas marre. Ton fils, ça a les mêmes problèmes depuis 14 ans, ça y est, il faut passer à autre chose. Ah non, pourquoi? Qui a dit? Ah, tu allumes des bougies, tu manges des téphilines. Mais tu mets des téphilines, mais réfléchis en mettant les téphilines. T'as un problème avec ton fils, réfléchis, t'as un rapport avec ça, comment ça marche? T'as été voir tous les médecins du monde. Mais chaque médecin que tu vas voir, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, un bon psychologue? Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu lui amènes ton fils, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, essaye de te mettre à sa place. Je vous ai déjà expliqué ça 1 million de fois. C'est pas difficile de se mettre à sa place, puisque tu es à sa place. Parce que ton fils de 8 ans, c'est toi quand tu avais 8 ans. Donc ton fils de 8 ans, il est en toi à 38 ans. Donc quand tu te mets à sa place, tu essaies de le régler à son problème à lui. En fin de compte, c'est ton problème à toi que tu règles. Tu dis, mais c'est pas mon problème, c'est son problème. Alors d'où il l'a eu, lui, s'il l'a pas hérité génétiquement? Or, s'il l'a hérité génétiquement, c'est que tu le contiens. Donc l'enfant qui est devant toi, c'est un problème pour toi, un problème pour toi, une solution pour toi, une solution pour lui. Mais tant que tu n'as pas compris le fond du problème, tu ne peux pas trouver la solution. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Vite, 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 ils veulent se débarrasser. Oh là là, une ségoula, un système, un truc, n'importe quoi. Vite, vite, rien qu'on se débarrasse de cette ramma. La ramma du problème. Mais le problème, c'est qui fait grandir, c'est qui te fait grandir. Ah, on n'est pas des masos! Évidemment, il faut ni faire durer un problème, ni se débarrasser du problème. Il faut juste le temps. Comme exactement comme une omelette. Tu la mets pas à cuire, elle est crue. Tu la mets trop à cuire, elle est sèche. C'est un dosage. Donc, tu veux ou non? Pas la vie, c'est pareil. Combien de temps tu dois rester avec ton problème? Le temps qu'il te fasse grandir. Quand tu sens que tu es cuit, ça y est, avance. Et c'est pareil maintenant. Quand la personne, elle réfléchit, elle dit, bon, moi j'ai un doute, d'accord? Et ce doute-là, c'est une question qui se pose à moi. Maintenant, moi, comment je peux faire? Est-ce que je vais l'aborder de manière réfléchie parce que j'ai envie de comprendre ce qui se passe? Ou non, je vais trouver une solution pour me débarrasser. Et c'est vrai que dans la vie, c'est comme ça. Les gens, ils regardent autour d'eux. Bon, qu'est-ce qu'ils font la majorité? Bon, la majorité, bon, ils font comme ça. Où est-ce que tu as mis ton fils? Oh, ben, je vais le mettre là-bas. Comment, qu'est-ce que ça se passe? Oh, ben, là-bas. Où t'achètes ta voiture? Oh, ben, là-bas. Mais, je comprends pas. Mais, t'as une question maintenant. Réfléchis-toi. En quoi la question te concerne? Comment est-ce que tu es adapté à ça? Comment est-ce que tu peux grandir avec ça? Comment tu peux l'aborder? Et tu verras. Peut-être ton fils, il serait mieux dans une autre école. Tu dis, mais tout le monde va là-bas. Et c'est très compliqué. Vous savez, ils avaient de très bonnes écoles avec une mauvaise classe. Et ton fils, il est dans la mauvaise classe, mais dans la bonne école. Ou ton fils, il est dans la bonne classe, dans la mauvaise école. Compliqué. Ou alors, il est dans la bonne classe avec le mauvais professeur. Non, il est dans la bonne école, dans la mauvaise classe, avec le bon professeur, mais le mauvais élève à côté de lui. Mais suivi? C'est un très très grand professeur qui a développé ce type de théorie qu'on appelait le professeur Traloède. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je l'ai mis dans la meilleure école, il est dans la classe la pire. Baruch HaShem, le prof, il l'aime beaucoup et c'est un très bon prof. Mais il est à côté d'un élève qui a une influence qui est mauvaise. Va comprendre. Tac, 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 tac! Comprenez ça? Mais toute la vie, c'est comme ça. Si tu regardes la majorité, mais qui t'a dit que c'est adapté à ton fils? Ah, mais toutes les femmes, elles sont comme ça. Qui t'a dit que c'est adapté à ta femme? Oh, mais les hommes, on les connaît, on sait ce qu'ils veulent. Mais qui t'a dit que ton mari, il est comme tout le monde? Maintenant, ou toi, tu vas aller d'après une majorité pour te débarrasser de ton problème. Ou toi, tu vas après une majorité, c'est-à-dire de réflexion, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, pourquoi je vais choisir de réfléchir? Pourquoi je vais essayer de choisir de comprendre? Pourquoi je vais le faire? Au fond. En fait, tu n'as pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu as un programme télé, bah, au Hachem. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Mais bah, au Hachem, il y a les soldes. Pourquoi j'ai besoin de réfléchir? Mais est-ce que tu vas être blonde ou brune? Mais c'est évident, c'est la majorité, on va d'après les blondes. Ouais. Est-ce que tu vas être intelligente ou bête? Bon, on ne peut pas être une femme intelligente en 2007, c'est impossible, il faut être brala. Si tu veux être belle, il faut être baha. Est-ce que tu vas être bronzé ou non? Mais il faut être bronzé, j'ai l'air de quoi? Tu n'arrives pas à l'eau, tu reviens de vacances pas à l'eau. Ou tu dis, attends, tu étais en prison. Non, je t'allais chez Shiva. Ah bon? Non, c'est une prison. Ouais. Ça veut rien dire d'être pâle aujourd'hui. On ne peut pas être pâle. Ça fait bizarre, ça fait indien. Non, c'est pas grave. Alors, c'était marqué ici. On s'appelle visage pâle, hein, pour ceux qui ont arrêté les westerns depuis longtemps. Il dit, le problème, il est où? Un homme, il est là, il est au milieu. D'accord? D'un côté, il a son cerveau, avec lequel il peut atteindre Dieu. D'un autre côté, il a son rav, avec lequel il peut atteindre Dieu. Maintenant, il doit réfléchir. Est-ce qu'il va aller d'après sa tête ou est-ce qu'il va aller d'après son cerveau? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou d'après son rabbin? Est-ce qu'il va d'après la Torah ou est-ce qu'il va d'après son intelligence? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah ben, j'ai du bon sens. Une fois, j'ai dit ça à un grand rabbin. Je lui dis, comment ça se fait qu'il faut des dizaines d'années d'études de Torah pour avoir du bon sens? Non, franchement, ne vous vexez pas. Hein. Mais combien de fois les gens ils viennent avec des questions, mais compliquées. Hein. Puis les gens, des fois, ça fait 10 ans qu'ils ont une question. Toi, tu leur réponds simplement. Tu dis, ben, fais comme ça. Alors, le type, il dit, oh, mais c'est incroyable. Quelle lumière. Tu dis, franchement, je vois pas où est la lumière, vraiment. Il dit, mais c'est énorme. Moi, j'avais 7867 possibilités. C'était clair. Les gens, ils viennent avec des trucs. Mais écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on part? Mais si on part, on a un problème parce qu'on est dans ce quartier, mais ce quartier, ça ne correspond pas parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'on attend. Mais de l'autre côté, les enfants, ils sont ici, ils sont déjà scolarisés, mais de l'autre côté, là. Je dis, mais baba, ce qui compte, c'est ce que, là où tu es, tu évolues. Si tu vas là où tu vas évoluer, il faut arrêter. Je dis, oui, mais vous comprenez, ce n'est pas évident, donc on veut y aller. Mais de l'autre côté, mon mari va rester. Je dis, mais baba, la mort du foyer, pour quoi faire? Pour faire de la géographie. La vie, ce n'est pas du tourisme. Ah, mais écoutez, je ne l'avais pas vu de cette manière. Mais quelle manière? Ah, vous m'avez éclairé. Non, on a juste allumé la lumière. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tricotent dans leur cerveau. Ils tricotent. La corde par là, la corde par là, la corde par là, la corde par là, la tête par là, le problème comme ça, la mère, la belle-mère, la soeur, le frère, la tête. Il faut juste défaire les fils. Tu n'es pas concerné par les problèmes de ta belle-mère ou de ta belle-sœur. Tu as un problème d'amour propre qui te crée un conflit avec ton mari. Donc déjà, tu sépares la famille, il te reste toi et ton mari, et au milieu, ton amour propre. Ton amour propre, ce n'est pas ton couple, puisque l'amour commun, c'est le contraire de l'amour propre. Donc tu mets de côté l'amour propre, il reste ton mari. Est-ce que ton mari est extraordinaire? Mais quand tu le regardes à travers l'amour propre, il devient sale. C'est un sale mari, ce qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'il te remet en cause. Mais la remise en cause, ça veut dire la vie commune. Tu dis, ah mais la vie commune, c'est insupportable. Alors va-t'en. Tu dis, non, je préfère rester. Alors ferme-la. Il faut s'arranger. Comprenez ou non? Il dit, cette logique-là, qui est évidente, les gens, je te dis, vous savez, j'ai fait 24 conseillers conjugaux, j'ai vu 34 psychologues, j'ai vu 54 médecins. Je dis, mais c'est évident. Alors j'ai dit à ce Rav, comment ça se fait qu'il faut étudier 20 ans la Torah pour avoir du bon sens? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la société, la rue, la télé, la radio, et surtout le Yetzer Hara, ce sont des mébalbélim, on dit en anglais. Des embrouilleurs. Ika avodat a Yetzer Hara, les balbel et tadeot. Le principal activité du Yetzer Hara, c'est d'embrouiller l'esprit. En vérité, c'est clair ton histoire, mais c'est mélangé dans ta tête, c'est mesoubah. On dit c'est mélangé, tu dis mais pourquoi c'est tellement compliqué alors que c'est simple. Maintenant, celui qui s'habitue à chercher l'essentiel, au milieu d'un imbroglio de superficiel, il voit une trame. Mais celui qui, lui, il voit que le superficiel, parce que le type qui a peur que Chas v'Shalom, demain, dans la suite de son feuilleton américain, le héros meurt, et il a peur, il a l'angoisse que Willy, Willy. Comment veux-tu qu'il trouve une solution à son problème de couple alors qu'il est angoissé par la mort de Willy qui va très bien? Il se demande qui c'est, Sarkozy ou Royal ou Sarkozy. Mais ça ne va rien changer. Aujourd'hui, c'est trop rigolo. Aujourd'hui, la gauche est de droite, la droite est de gauche. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai dit, il faudrait que Sarkozy l'épouse Royal. Et on s'arrange. La France présidente, de toute façon, c'est toujours la femme qui décide. Et les bébés qui naîtront, on les appellera Bayrou. Comme ça, tout ira bien. Et Jean-Marie, de toute façon, il fait de la peine, donc il n'y a rien à faire. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi cette logique? Ça veut dire que c'est une mascarade. Hier, il y avait le débat. C'était hier le débat ou avant-hier? Ce matin, un type il m'a attrapé. Il m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'elle a proposé, la future présidente? Elle a dit que comme il y a une femme policière qui s'est fait violer, il faudrait mettre des policiers pour protéger les femmes policières. Extraordinaire. Après, il faudra un policier pour protéger le policier qui protège la policière. Si les voyous ils viennent à quatre, alors il faudra quatre policiers pour protéger le policier qui projette la policière. Je dis, alors maman, on va tous faire une grande police. Moi, j'ai dit, on n'a qu'à nommer les voyous flics, comme ça, on a réglé le problème. Déjà que les flics voyous, ça existe, alors. Il n'y a qu'à faire des voyous flics. Je dis, mais comment on peut être président futur et dire une débilité pareille? Non, mais c'est balèze. Elle n'est pas payée pour être bête. Les autres, c'est des clowns, je peux comprendre, mais elle, c'est... elle y croit vraiment. Elle dit, oui, nous allons mettre un policier derrière chaque policière. Mais là, si tu trouves que ce métier est dangereux, t'as qu'à être caissière. C'est bizarre cette ambiance. Je sais pas moi, on parle de la présidente, ça veut dire qu'ils vont lui mettre l'arme atomique. Et si elle a un coup de nerf, elle dit oh, oh. Mais non, c'est pas pour elle, Chas v'Shalom. Elle n'est pas moins atteinte que le mec en face. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mascarade. La mascarade. Une grande mascarade. Et le pire, c'est pas eux. Eux encore, ils vont gagner. Si elle paye, elle prend ce qu'elle va prendre. Mais les autres qui suivent la mascarade. Après ceux qui croient qu'il faut suivre la mascarade. Après les gens qui parlent, des commentaires sur la mascarade. Ça fait une masse de bitoul Torah. Énorme. Un nuage radioactif de lourdeur qui traverse la France. Je me demande comment ils vont parler après les élections. Ça va être dur. Il y a un pot de moutarde qui a tourné chez Auchan. De quoi ils vont parler? C'est difficile. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il est mébalbel. Le Yetzer Hara, il embrouille. Et je vous ai déjà dit ce qu'a enseigné souvent le Rav Colombo. Vous vous rappelez de lui ou non? Un Rav qui est toujours en imperméable. Il a dit, le Rav Colombo, toujours tu dois chercher à qui profite le crime. À qui profite le crime? Tu vois, toi, que tu perds ton temps, réfléchis à qui ça profite. Tu dis, ouais, tu crois que t'as raison, d'accord, mais ça fait 3 mois que tu parles plus à ta femme. Alors, à qui ça profite? Maintenant, tu vois que tu comprends plus rien, tu dis, mais qui c'est qui cherche à m'embrouiller? Cherche le meurtrier. Le meurtre, c'est de t'embrouiller. Cherche le meurtrier. À qui te profite le crime? Alors maintenant, ça te sert à quoi de faire la tête? Mais maintenant, tu comprends plus rien, ça te sert à quoi? Pourquoi t'as pas envie de réfléchir? Viens, réfléchis. Non, non, non. Qui a dit que c'est moi? C'est le cas. Écoute, papa. Je vais t'expliquer un principe fondamental. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de le comprendre. Le monde entier concerne chacun. Mais suivi, le monde entier me concerne à moi, et le monde entier se concerne à toi, et le monde entier se concerne à toi. Maintenant, il y a une espèce d'illusion d'optique de croire qu'on est dans le même monde. C'est un halom. En vérité, on est dans un seul monde chacun. Ça va? T'as compris ça ou non? Donc comment est-ce que moi je peux me servir de l'autre pour essayer de justifier ce qui ne va pas chez moi, puisque lui, il est dans un monde et moi, je suis dans un autre? La preuve, c'est que quand on vient au monde, on vient seul. Et quand on s'en va, on part seul. Pourquoi on ne part pas tous ensemble? Parce que quand on va arriver là-haut, tu vas nous dire, pourquoi toi, Maurice Benichou, n'as-tu pas mis les téfilines? Alors je vais lui dire, ouais, tu sais, je n'ai pas grandi dans un milieu, j'étais pas seul, et puis de toute façon, dans ma vie, la majorité ne faisait pas. Comme dans certaines radios juives, que le nom de juif, que le nom. Ouais. Écoutez, monsieur, étant donné que la majorité de la communauté n'est pas religieuse, donc c'est normal que. La majorité? Mais Ahmar, je te signale que dans ton corps, la tête, c'est même pas un 20e. D'accord? Et dans le 20e du corps, le cerveau, qui est un 20e du corps, il n'y en a même pas 0,2% qui t'aide à réfléchir. D'accord? Donc toi, tu réfléchis avec tes pieds ou avec ta tête? C'est quoi la majorité? C'est bizarre, les gens. Alors, ils font passer comme ça des informations, comme quoi plus t'es brel, plus t'as quelque chose à dire. Eh ben, dis-le. Alors que la Torah, depuis le début, elle répète, si t'as rien à dire, fais cette mitzvah que n'importe qui peut appliquer. Ferme-la. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherches la vérité. Tu trouves la vérité, mais la vérité, elle n'est pas majorité. La vérité, elle est propre à chacun. Tu dis, oui, mais on vit tous ensemble, on est une grande communauté. Super! Mais si on est une grande communauté, on aurait dû tous naître le même jour et tous mourir le même jour. Non, non, Dieu a dit, on va utiliser la communauté parce que chacun, il a besoin de l'autre pour apprendre. Mais chacun, il est seul devant le bon Dieu. Comme toi-même, tu es seul. Tu sais, on était tout un groupe, on l'a entraîné, on a cassé la vitre, on a tué le mec. D'accord, mais le policier, il demande, le juge demande. Qui c'est qui te donne la matraque? Oh, mais on était tout un groupe. Qui c'est? C'est toi. Qui c'est qui a frappé le premier? C'est toi. Ah, mais en tôle. Eh, mais on était tout un groupe. Tous les autres, ils étaient là pour l'ambiance et pour le décor. Allez, vas-y, frappe-le. C'est toi qui vas aller en prison. T'as fait le rigolo. Ouais, tu sais, on avait une société. Oh, bon, finalement, on paye pas. On l'a pas payé, on a planté 1 million d'euros. C'est toi qui vas aller en prison. C'est ta responsabilité civile. Alors, si tu comprends qu'un jour ou l'autre, la responsabilité, elle te rejoint. Oui? Pourquoi tu crois que la responsabilité de tes enfants, elle ne va pas te rejoindre? Pourquoi tu crois que la responsabilité de ta famille, elle ne va pas te rejoindre? Elle va te rejoindre, la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'elle t'appartient, elle est liée à toi. Et maintenant, où tu vas être un peu raham de te demander, bon, maintenant j'ai un doute, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tourner vers ma tête ou je dois me tourner vers la Torah? Maintenant, pour arriver à la Torah, on te dit tu passes par le Rav. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai pas besoin, moi je suis un mec intelligent. Je prends le passouk, je le lis, je réfléchis et je trouve le bon Dieu. Quelle différence entre les deux? Alors c'est marqué dans le passouk. Et Hashem Elokicha tira. L'Éternel ton Dieu tu craindras. Et Hashem, et. Rabbi Akiva, il a été Doresh, Kola Etim Sheba Torah. Il a réussi à tirer un enseignement de tous les et. Vous savez, et. Aleph Tav, oui, dans la phrase, ça sert à rien en hébreu. Vous avez fait de l'hébreu, non? Le et, ça sert à rien. C'est pour introduire le complément d'objet direct. C'est un mot qui n'a pas d'utilité en soi, oui. Il dit là-bas, lui, il a dit tous les et, ils servent à quelque chose dans la Torah. Or, c'est marqué et Hashem Elokecha tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Il a dit et les rabot talmidei chachamim. C'est pour inclure les sages. Que de la même manière qu'un homme, il doit craindre Dieu, un homme, il doit craindre les sages. Et tu dis, écoute, franchement, je veux bien, mais là, c'est exagéré. Comment tu vas mettre les sages sur le même plan que le bon Dieu? Mais c'est dangereux, parce que si le rabbin, il se prend pour le bon Dieu, bon, il y en a un qui a essayé il y a 2000 ans, il a eu des problèmes. Rappelez de lui. C'est quelqu'un qui a étudié beaucoup la Torah, mais après, il a tout oublié. Quand on lui disait, mais tu sais que c'est interdit, il disait, j'ai su. D'accord. Il dit, comment tu peux inclure les chachamim dans le « et » qui introduit Hachem, la crainte d'Hachem. Le problème, il est comme ça. Ce n'est pas Chas v'Shalom qu'il faut craindre les rabbanim comme le bon Dieu. Mais non. Le problème, c'est que tu ne pourras pas atteindre la crainte d'Hachem quand tu ne passes pas par la crainte du Rav. Comme la Gemara, elle dit, quelqu'un qui ne craint pas ses parents, il ne pourra pas craindre Dieu. Parce que si déjà le père et la mère, qui quand ils sont petits, sont comme lui, comme le bon Dieu, ouais, il n'arrive pas à les craindre, comment il va craindre quelqu'un qui ne voit pas? Si déjà ceux qui voient, il ne les craint pas. C'est un enfant qui n'a plus peur, il est dangereux. Un enfant qui n'a pas de respect, il est dangereux. Ben, c'est exactement pareil. Donc ça veut dire que les parents, en fin de compte, sont des relais pour atteindre Hachem. Un jour, ton fils, il va venir chez toi, il va dire, papa, papa, tu dis, écoute mon fils, moi je suis un relais. Ce qui compte, c'est le bon Dieu. Donc, là où tu es, A. Là où je suis, B. Entre A et B, tu peux tracer une droite. Prolonge la droite. Au bout de la droite, plus l'infini, il y a le bon Dieu. Si tu fais croire à ton fils que c'est toi le bon Dieu, c'est pas joli. D'abord, il va se rendre compte que le bon Dieu, il a des défauts. Il se lève pas le matin, il ment, il triche. Non, toi tu lui dis, je suis un relais, je suis comme toi mon fils, comme toi tu es devant moi, moi je suis devant le bon Dieu. Les deux on est devant le bon Dieu. Et cette logique c'est que c'est un relais. Exactement pareil, comme existe un relais de parents, il existe un relais du chacham. Le chacham c'est un relais. Maintenant, vous savez, c'est un problème dans la Gemara d'Abamotia. Si un homme est dans un bateau avec son rav et son père, et que les deux tombent à l'eau, il doit sauver qui? Alors je répète. Il est avec son père et son rave. Il peut en sauver qu'un. Il doit sauver qui? Son rave ou son père? N'ayez pas peur, je n'ai pas dit qu'on va amener une barque et qu'on va essayer. Bon, on va dire que cette halakha, on souhaite à chacun de ne pas avoir à l'accomplir. Mais déjà, l'idée de la halakha, elle veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu dois regarder, elle dit la Gemara, les parents, ils représentent le passé qui t'a amené jusqu'ici. Et la rabbanim, ils correspondent au futur qui va t'amener au lamaba. Alors tu dois regarder le futur ou le passé. Si vous allez me dire, j'arrive pas, hasbe shalom, papa. D'accord. Dis-moi, s'il y a un conflit entre ta mère et ta femme, tu choisis ta mère ou ta femme? Adam Lecha. Comme ça, tu parles de ta mère. Je raccroche et je meurs. Comment tu vas faire? Ta mère, elle te fait un chantage émotionnel. Ta femme, elle te fait un chantage émotionnel. Et toi, ton milieu, t'es écartelé. Tu vas mourir. Ta femme, elle te dit, de toute façon, elle m'a jamais aimé. De toute façon, c'est une sorcière. Je suis certain que c'est elle qui nous met la rinara. Elle fait du chroc. Et ta mère, elle ne comprend pas. Elle dit, mais enfin, mon cœur, mon chéri, moi, je t'ai pas obligé à te marier. Je t'ai gardé ta chambre. Pourquoi t'es parti avec cette voleuse? Qui c'est qui t'a fait un ingénieur? Qui c'est qui t'a fait tes diplômes? Qui c'est qui t'a fait à manger? Qui c'est qui t'a donné le sein? C'est moi! Qu'est-ce que tu vas chez elle? Cette nouvelle étrangère! Voleuse. C'est un conflit. Et l'homme, il est... moi j'ai eu beaucoup de cas de Shalom Bayit où le mec, il était coupé en deux. Une mère possessive et une femme possessive, et lui est devenu diapositive. Et il est écrasé, quoi. Comment il va faire ? Ben, y a un moment ou un autre, normalement, il n'y a pas de problème, parce que normalement, des parents équilibrés, ils disent à leurs enfants, tu sais, mon fils, vis ta vie, va avec ta femme, arrange-toi avec elle, c'est ça qui compte, c'est le shalom. Mais il y a des parents qui ne sont pas comme ça. Ils sont rares, en voie de disparition, on en a gardé deux au musée de la souffrance, ouais. Mais il y en a malheureusement, et comment tu m'appelles plus, tu viens jamais, je t'ai déjà dit, condition que tu te maries, mais tous les soirs tu rentres chez moi. Ne rigolez pas, j'avais un cas de shalom bayit comme ça, le type tous les soirs, il rentrait chez sa mère. Et à 11h du soir, il rentrait chez lui. Permission de minuit. Incroyable, non? Je dis, moi, bah, j'ai pas fait de psychologie, mais avec les cas de zoologie que j'ai vus, j'ai appris beaucoup. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, elle te pose une question. Alors, tu vas aller d'après ton passé ou tu vas aller d'après ton avenir? Il faut se remettre en cause. Voilà, 50 ans, tu as fait un dépôt de bilan. Qu'est-ce que tu vas rester sur ton passé et dire, ouais, tu sais combien on avait fait avec cette boutique? Ou tu vas dire, bon, écoute, maintenant, il faut recommencer à zéro. Tu es capable de recommencer ou tu dis, ah là là, quelle boutique, quel magasin? Ouah, de la dépression. Au lit en train de pleurer en regardant les photos. Ah, oh, tu sais combien on a fait dans ce magasin? Bon, il a brûlé le magasin, ça va? Ah, oh, combien on a fait? La capacité de trancher, c'est la capacité d'aller vers là ou vers là. Alors maintenant, la question est de savoir, pour trancher dans la vie, est-ce qu'il faut y aller carrément, couper, ou il faut réfléchir et décider? C'est la même question, le rove. Est-ce que c'est une manière de se débarrasser? C'est d'un doute, ou est-ce que c'est une manière d'éclairer le doute pour trouver la solution? Est-ce que tu vas aller selon ton cerveau, qui te permet d'éclairer les choses, ou tu vas écouter le rave parce que tu as confiance en lui? C'est pas évident de réfléchir. C'est pas évident du tout. Est-ce que la Torah s'adresse aux imbéciles? C'est une question. Maintenant, est-ce que d'avoir confiance dans les chachamim, c'est être imbécile? Pas évident. Quelqu'un va dire non, je n'ai pas besoin de rave, moi. Moi, je me débrouille tout seul. On voit ta tronche que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un rave, tu as besoin d'un psychiatre. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, il m'a dit, de toute façon, je vous préviens, monsieur le rabbin, moi, je ne ferai pas des chouva. J'ai dit, bah, au haché. Sois pas obligé de prendre un hamal comme ça avec un chapeau. Au moins sans chapeau, on arrive encore à délimiter. Avant de faire une teshuva, il faut d'abord que tu fasses une thérapie. T'es un type dangereux. Comprenez ou non? Pas confondre le fric et le frac. Le frac, c'est le vêtement long, ouais. D'accord. Est-ce que t'as du fric, tu peux mettre un frac. Même si le frac, souvent, il amène le fric. Donc ça veut dire quoi? Il s'est marqué ici une chose. Ici, c'est marqué que non seulement la majorité, c'est une manière d'éclairer, d'accord ? Maintenant, celui qui va t'aider à éclairer, pourquoi ? Parce qu'il dit, le Messiah Técharim, un homme, il est pris dans un labyrinthe. Vous savez les labyrinthes en feuillage, en buisson, vous savez comme il y a dans les châteaux des fois ? T'es perdu comme ça dans la jungle, tra, 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 perdu dans la jungle. Mais il y en a un, il est monté sur un observatoire à 30 mètres de haut. Lui, il voit au-dessus, il voit la jungle, il voit les passages. Il te dit, prends à gauche, prends à droite, prends à gauche, prends à droite. Et là, ils disent, non, je me débrouille. Il reste perdu dans le labyrinthe de la vie, 35 ans. Il y en a, ils écoutent le chacham, et ils sortent du labyrinthe. C'est exactement pareil. Est-ce que dans la vie, tu es prêt à écouter de quelqu'un d'autre ou non? Tu dis, non, comme il a fait lui, je vais faire moi. Mais de l'autre côté, tu vas perdre 30 ans de ta vie. Là, je vous ai dit, moi, quand j'avais 16-17 ans, bon, je réfléchissais pas mal, ouais. Je dictais des dissertes de philo pendant le dessin industriel, donc j'étais pas foncièrement nul. Mais quand j'ai lu un Pirkei Avot, et j'ai vu un enfant de 8 ans qui m'a expliqué un Pirkei Avot, j'ai dit, mais c'est Platon ce mec-là. 8 ans. J'ai dit, à 8 ans, il a ça dans la tête. Bon, il comprenait pas de quoi il parlait l'enfant. Il n'avait pas compris que im en anili mili, ve im lo arshav et matai. Ouais, c'est la problématique de relationnel que l'homme il entretient avec lui-même et la relationnelle que l'homme il entretient avec le temps. Il n'avait pas compris, lui. Il a dit, d'accord. Mais j'ai dit quand même, un type comme ça, à 8 ans, on lui donne des outils tellement extraordinaires. Je dis que moi, pour avoir ça, si je me casse la tête depuis maintenant jusqu'à l'âge de 70 ans, je vais commencer à comprendre de quoi ça parle. Alors j'ai compris un truc énorme. La vie, elle est grande. La vie, elle est compliquée. La vie, elle est forte. pour réussir quelque chose, on est obligé de te donner les outils au départ. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Dans son grand orgueil, il dit non, je vais trouver la mission, je vais trouver les forces, je vais trouver les moyens et je vais trouver les armes tout seul. Alors voilà, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent. Ils essayent. Un peu la philosophie, un peu le communisme, un peu le capitalisme, un peu le naturisme. Chacun, il essaie de trouver un chemin pour essayer de mettre à nu la vérité. Oui? C'est impossible. Papa, c'est impossible. La vie, elle est trop courte. À 20 ans, il faut être mûr pour qu'à 70 ans, tu sois complet. Mais à 20 ans, les gens, ils sont pas mûrs. Non, mais regarde-le devant la PlayStation. Je crois qu'il va se marier, ce mec-là. C'est ce qu'il a dit. Comment il va se marier? Tu essaies de lui parler, il n'arrive pas à enlever ses doigts de MSN. Tu dis, bon, on peut parler? Attends, juste 2 minutes. Attends. Oui, attends. Non, tu ne peux plus parler avec ton fils. Si tu veux lui parler, il faut un écran avec un clavier. David, on peut parler? Tu te mets de l'autre côté de l'écran, tu fais... Non, mais je vais juste parler avec toi. C'est quoi cette dimension? Tu crois que ce mec-là, il va se marier? Tu crois? Il se lève le matin pour son jeu vidéo, il se couche la nuit pour parce qu'il joue au poker. Tu crois qu'il va se marier? J'arrive pas à croire. Tu sais, c'est une nouvelle maladie, ça. Il joue au poker toute la nuit. Comment vous faites pour le réveiller le matin? Poker Tov. Il y a ça à Marseille ou non? À Paris, c'est un massacre. Un massacre! Ils arrêtent l'école. Le mec, il gagne 150 euros par jour. Pourquoi tu crois qu'il va aller? Il joue au poker sur Internet. Après, il va dans un club. Après, en plus, ça veut être préféré. Il est là-bas, donc il est content d'être assis à côté de Ahmar. Ouais. Et l'autre, c'est un ingénieur. Hein, il a arrêté les études. Celui-là, il a arrêté. Pour jouer au poker. C'est une nouvelle maladie. Non, c'est grave. Ne rigolez pas. Hein. C'est très, très grave. Parce qu'à l'époque, quand tu disais, bon, ce mec-là, il joue, on savait que c'était un voyou. Mais non, c'est une misva. Comment tu joues pas? Mais attends, t'es pas dans le coup. Sérieux, c'est pour s'amuser. Bon, on joue pas beaucoup, 5 euros, 6 euros. C'est ce que c'est le jeu. Le jeu, c'est un monde virtuel. Donc tu peux avoir les mêmes sensations, les mêmes pulsions, les mêmes impulsions, mais en virtuel. Mais le problème, c'est que quand tu t'inscris dans le virtuel, tu échappes au réel. Donc le mec qui vit la nuit est dans les cartes, au lieu d'être le jour, dans la réalité. Et ça vient de quoi ça? Ça vient de la virtualité de la relation qu'on entretient avec la réalité. Pourquoi, encore une fois? Parce que quand on a un doute, on a deux manières de faire. Soit on va l'assumer, soit on va s'en débarrasser. Maintenant, aujourd'hui, les gens, on leur apprend à avoir des plaisirs faciles, des solutions faciles, des kiffs faciles. Donc le type, quand tu lui dis, dis-moi, pour gagner 5000 euros, tu préfères quoi toi? Travailler 3 mois ou jouer aux cartes? Eh bien, jouer aux cartes. Et maintenant qu'il a gagné, parce que c'est toujours comme ça, le Yetzara, toujours il te fait gagner au début. Maintenant qu'il a gagné, va lui dire d'aller travailler pour 1000 euros. Il dit, attends, je suis pas un muskin. C'est ça le problème. Il t'a acheté avec 1000 euros, l'autre il l'a acheté avec 100 euros, l'autre il l'a acheté avec un décolleté. Chacun il se fait acheter par quelque chose. Mais le problème, c'est pas qu'est-ce que tu as gagné, c'est à quoi tu as renoncé quand tu as pris ça. Tu as renoncé à quoi? Il s'est marqué ici. Il dit, quand c'est marqué Et Hashem Elokichatira, l'Éternel ton Dieu tu craindras, tu veux arriver au bon Dieu toi. Alors il faut que tu aies un repère. C'est quoi ton repère? C'est ton rave. Le rave, il doit, comme ça c'est marqué le rave, il doit ressembler à un ange. Malach Hashem Tsevakot. Tu dis, mais c'est très compliqué, c'est dur à trouver aujourd'hui des rabbanim sérieux. Je suis d'accord avec toi. Mais des DJ sérieux, c'est encore plus compliqué. Donc toi tu dois réfléchir. Et est-ce que tes enfants, leur référence c'est la Torah? Et des personnages de la Torah? Ou est-ce que tes références de tes enfants, c'est des personnages de la télé? C'est qui le héros de ton fils? Spider-Man. Ah bon? Et toi? Arthur. Rav Arthur. Et toi? Bruel ou la Zidane. T'as pas peur que ton fils il termine sa carrière sur un coup de tête? Si les héros de nos enfants sont des êtres virtuels, nos enfants vont se identifier à des êtres virtuels. Ils risquent de devenir des êtres virtuels. C'est très, très grave. Pourquoi on doit raconter aux enfants les histoires de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir, de Rabbi Yohanan, et de Rav Shach, et du Rabbi, de Baba Salé? Pourquoi faire? C'est pourquoi? Parce que Baba Salé, il a existé. Mais Zidane n'a jamais existé. C'est une excroissance de ballon. Quel rapport avec eux? Tu dis, ouais, mais Sylvester, et alors? Il a joué un rôle. Tu veux que ton fils il joue un rôle toute sa vie? Tu veux que ton fils il soit un homme bien ou un bon acteur? Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas compris. Quand c'est marqué « Et Hachem Eloki Khatira »« Et les rabot Talmidei Chachamim » Ça veut dire que la Torah, elle t'a dit « Écoute les sages » parce que le sage, il va t'amener vers Hachem. Mais t'as déjà vu un mec qui regarde Zidane et qui dit « Tiens, je vais mettre les téfilines demain matin. » T'as déjà vu un mec qui a dit « Tiens, il a vu Arthur, il a dit « Tiens, je vais épouser une juive. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Fais attention, qui c'est les héros ?» Parce que peut-être les héros, c'est des héros. Et parle un peu avec eux. Quel niveau, Blénara, ils sont impressionnants. Plus t'es vrai, plus t'es débile, plus t'es payé. C'est la nouvelle hiérarchie de la télé. Plus t'es prêt à dire de lourdeur en public, plus t'es payé. Et toi, t'es frais, t'es content, tu as participé. Tu dis, ah, j'ai pas raté cette émission. Cette émission de quoi? Le mec, il a vomi en public, ça te fait plaisir. Et tu as dit à quelqu'un, viens, on va s'asseoir pour étudier. Viens, on va voir, on va écouter le cours. Arrête. Franchement, ça me... Ouf! Quand tu leur parles de religion, ils disent « Oh, la barbe !» Mais franchement, de ta religion à ma religion, je préfère la mienne. C'est quoi ta religion à toi? Star Academy, franchement. Et là, mais... je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Je sais pas, moi, je n'ai pas un cerveau de feu, mais je comprends pas. Le gars est en train de voter pour essayer de participer à un événement qui s'appelle l'élection de la Star Academy. Il s'est marqué ici que quoi hein? Que quelqu'un il fait l'inverse. Il essaye de s'accrocher à des personnes de valeur qui sont des références. Cette référence pour lui, elle devient émette. Maintenant, quand la référence elle devient émette, c'est le émette de cette référence qui va être pour lui une référence. Je donne un exemple. Un jour, Baba Salé il arrive dans une ville. Et dans cette ville, il n'y avait pas de mikvé. Et ça fait des années qu'il n'a pas plu. Un désert. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à 40 km de Khalal Khalé, c'est très très loin. Baba Salé vient dans cette ville et dit, il n'y a pas de mikvé, il faut faire un mikvé. Ils ont dit, écoutez, Rav, il n'y a pas d'eau. Facile. Déjà, on a juste l'eau pour boire et pour se laver. Vous voulez qu'on fasse un mikvé, on va mettre 800 litres d'eau dans un mikvé. Il a dit, faites le mikvé. Ah, comment faire? Faites le mikvé. Il était dur. Ils ont creusé, ils ont mis le carrelage, ils ont truqué. Il a dit, alors? Il a dit, vous avez fait votre partie, maintenant moi je vais faire ma partie. Il a été la prier. Il s'est mis à pleuvoir. Il s'est rempli de mikvé. Pourquoi? Il m'a fait écouter, la pluie est un phénomène naturel qui s'inscrit dans une logique de conjonction climatique, de phénomène naturel. Il n'y a pas. Ça, c'est bon pour les scientifiques, ou là, les météorologues, mais nous, on n'a aucun rapport avec ça. Nous, le tzadik qui va prier, il va pleuvoir. Si j'y arrive pas, dommage pour toi, t'as raté un truc. Cette dimension-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle a donné au Chachamim un pouvoir de fixer les choses dans la réalité. De fixer les choses dans la réalité. Est-ce que tu vas t'inscrire dans cette réalité ou non? Tu vas dire, mais je trouve ça un petit peu mystique. Mais entre le virtuel, d'accord, du feuilleton américain, et le mystique du rabbin kabbaliste, en fin de compte, lequel des deux qui est plus à côté de la plaque? C'est ça le problème. Comprenez ou non? Comme les gens me disent. Bon, enfin, monsieur Métchifri, faut quand même être réaliste. Mais réaliste de quoi? Tu veux que je réalise de quoi? Mais si je suis réaliste, je me tire une balle. Je peux pas. C'est quel avenir pour ton fils? Ben oui, il va être homo. Oui, il va être drogué. Oui, il va être deb. Oui, il va être un joueur de jeux sur Internet. C'est quoi l'avenir de ton fils? C'est quoi l'avenir? Alors, pour y croire à la Torah, qui peut évoluer, être un sadique, un homme équilibré, faut croire au miracle. Oui, t'as raison, papa. Pas 3 sur 4, ils ont touché les joints. 3 sur 4, d'accord? Plus tous les types qui arrêtent les études en milieu, plus ceux qui traînent, plus les embrouilles, plus les prisons. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc, toi, tu vas être capable d'avoir un projet fort et grand et dire on va traverser cette masse de boue pour faire un homme bien. C'est ça l'ambition que tu as pour tes enfants? Ou tu vas dire, ah bah tu sais, il faut voir la majorité, hein? Oh là, Boal Sarah. La majorité? C'est toi qui parles de la majorité. Je te dis, les chachamim, ils créent la metziout, ils créent la réalité. Maintenant, comment elle fonctionne cette réalité? C'est la réalité de la halakha. Par exemple, la Gemara raconte, il y avait une discussion entre Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel. Il y avait une grande bagarre pour savoir comment est-ce qu'on avait fixé Yom Kippour. Rabban Gamliel, c'était lui le nasi, c'était lui le grand d'Israël. Rabbi Yehoshua, il était en mahloquette avec Rabbi Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Il a dit, toi Rabbi Yehoshua, tu vas venir tel jour avec ton bâton, avec ta bourse d'argent. Et avec quoi? J'ai oublié. Bon. Mais ce jour-là, c'était Yom Kippour, d'après le calcul de Rabbi Yehoshua. C'était Yom Kippour. Il ne voulait pas venir. Les chaussures en cuir. Il a dit, tu vas venir avec les chaussures en cuir et ton bâton, il va porter, on ne porte pas à Kippour. C'est comme Shabbat. Avec ta bourse d'argent, on touche pas l'argent. Et avec les chaussures en cuir, tu vas venir. Bien que c'est ton Yom Kippour aujourd'hui, à toi, d'après ton calcul, c'est Yom Kippour. Mais Rabbi Yehoshua, il est venu. Pourquoi? Parce que même Rabbi Yehoshua, il est placé devant un rave. Comme toi, tu es placé devant un rave. Et le rave, il est placé devant un rave. Ça ne se terminera jamais. Cette logique, c'est quoi? C'est ce qui crée la réalité. Tu dis, mais aujourd'hui, c'est Kippour ou c'est pas Kippour? Tu dis, oui, bon, mais ça encore, tu vas me dire, Kippour. C'est une réalité virtuelle, parce que bon, aujourd'hui, tu dis que c'est Kippour. Demain, tu dis que c'est Kippour. C'est virtuel. C'est vrai ou non? Qu'est-ce qui fait que c'est Kippour? Parce qu'on a décidé. Parce qu'on a fait des calculs, on est tombé que c'est Kippour. Ça aurait pu être demain ou après-demain. Mais si on vient, on te dit, aujourd'hui, c'est Kippour, prends ta voiture. T'arrives pas. Si on dit, demain, c'est Kippour, prends ta voiture. Tu la prends. Tu dis, mais qu'est-ce qui a fait que c'est Kippour? C'est dans ta tête. Oui ou non? Je voulais raconter cette histoire déjà, mais elle est belle. En 1955, à Caen, la ville de Caen, la majorité des commerçants étaient des juifs. Ils faisaient une grande braderie par an. La grande braderie, c'était toujours la braderie, c'était le samedi. Et cette année-là, la grande braderie tombe un samedi, Kippour. Ils font une réunion de tous les commerçants. Comment on va faire cette année, c'est Kippour? C'est la grande braderie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé Kippour. Ne rigolez pas. La personne qui me l'a raconté, elle était dans cette réunion. Ils ont déplacé Kippour. À Caen. Si vous demandez quand, c'était à Caen. Ouais. En 55. Je dis, mais comment on peut être débile à ce point-là? D'un autre côté, tu vas dire, attends une seconde. Pourquoi t'as l'angoisse, t'as peur? Parce que tu dis, mais c'est Kippour. Même Kippour, au moins Kippour. Parce que toi, mais l'autre qui a rien. Kippour, je t'en prie, dimanche, lundi, Kippour. Mardi, Pâques, la Pentecôte, le jour des galettes. Il n'y a pas de différence. Je dis, mais c'est une réalité. C'est que le type que c'est Kippour, aujourd'hui, il est Hayav Mita, il doit mourir. Cette année, il va avoir que des malheurs, c'est Kippour. Il va avoir des problèmes, ça. Il est coupé du Olam Haba. Je t'en prie, c'est une idée dans la tête. C'est incroyable. Hein? Il dit les Chachamim, quand ils ont calculé qu'aujourd'hui c'est Kippour, parce que quand ils ont fixé Rosh Chodesh, Tishri, automatiquement ils ont fixé Rosh Hashanah. Non, Rosh Chodesh et Loul, ils ont fixé un mois après Rosh Hashanah, un mois et 10 jours après Yom Kippour. Ça y est, c'est cette date-là. Mais si c'était un autre jour, Rosh Chodesh et Loul, automatiquement ça serait un autre jour Kippour. Mais suivi ou non? Donc c'est la différence entre Shabbat et Kippour, et les fêtes. Shabbat, c'est Dieu qui a fixé depuis le départ. Depuis le premier Shabbat, tous les 7 jours, c'est Shabbat. Mais les fêtes, c'est les Chachamim qui fixent. Alors quand les Chachamim ils ont fixé qu'aujourd'hui c'est Kippour. Mais Kippour, c'est un jour dangereux. C'est ce qui est marqué. C'est marqué quand Yom Kippour, il tombe un Shabbat, un ignorant, tu peux le tuer dans la rue. Tu vois un ignorant. Il ne connaît pas les lois. Donc c'est sûr qu'il transgresse le Shabbat. Et comme ce Shabbat-là est ton Kippour, donc il a transgressé Shabbat et Kippour, tu peux lui tirer une balle dans la tête, t'as rien fait. Parce que de toute façon, il est déjà mort. C'est pas une halakha, c'est une façon de... Ne commencez pas à réfléchir. Ah, mon beau-frère. Non, pas de chaleur. Hein. Il a déjà acheté le fusil à pompe. D'accord. La Gemara, elle veut dire que les gens, ils se rendent pas compte qu'est-ce que c'est la gravité. C'est la Gemara d'Amsachim. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est la gravité. Ça veut dire qu'un homme, le jour de Kippour, il est Hayav Mita. S'il ne connaît pas les lois, il est Hayav Mita. Et quelqu'un, il ne connaît pas. Et il a porté un petit peu. Bon, il a au moins porté un petit peu. Il a coupé un petit peu. Il a fait une bêtise. Bon, il n'a pas fait exprès, mais il l'a fait. Comprenez ou non? Bon, ça sort dans une demi-heure. Il prend la voiture pour écouter le chauffard. Ah, ça va chauffer pour toi. Oui. Il dit, cette logique-là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas compris que les Chachamim, ils créent une réalité. La Gemara donne un exemple comme ça. Elle dit, il y avait un Rabbi Yochanan, une fois, il était en train d'expliquer les psukim. Il a dit, à l'époque du Mashiach, quand il y aura le troisième temple, de chaque côté de la porte du temple, écoutez bien, le côté de la porte, il sera fait avec un diamant qui fera 10 mètres de haut. 10 mètres. Un diamant d'une pièce. Il y a un qui a écouté ça, il a commencé à rigoler. Il a dit, ah, un diamant d'une pièce. Déjà, un diamant de 380 carats. C'est gros, non? Il est comme ça. C'est un diamant qui appartient à un cheikh de l'Arabie Saoudite. Il est énorme comme ça. Il est connu, il s'appelle Taboz. Ouais. Énorme. Ça, c'est 380 carats. Mais 10 mètres de haut, c'est combien de millions de carats? Il a rigolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte la Gemara. Ce même monsieur, il a pris un bateau pour voyager dans la mer. Quand le bateau il a voyagé, il y a une tempête. Dans la tempête, il a vu au fond de la mer des anges qui étaient en train de tailler des diamants qui faisaient 10 mètres de haut. Quand il est revenu, il s'est mis devant Rabbi Yochanan. Il a dit, Rabbi Yochanan, tu peux continuer à enseigner parce que tu enseignes bien. Il a dit, pourquoi? Il a dit, voilà, j'étais dans la mer, j'ai vu. Il a dit, quoi? Avant, tu ne croyais pas, maintenant tu me crois. Il a regardé, Naase gel shel atsamot. Il est devenu un tados. Il est mort sur place, il s'est désintégré, il est tombé par terre. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui disent qu'il est vraiment mort comme ça. Oui. Il y en a qui disent non, ça veut dire qu'il a perdu toute sa valeur, toute son essence. Pourquoi? Parce que réfléchis bien maintenant. Toi, tu es là. La Torah, elle est là. Mais pour toi, la Torah, c'est un autre monde. Quel lien tu as avec la Torah? Ben, c'est les chachamim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si un aveugle, il voit rien, il tient la main de quelqu'un, et l'aveugle, il voit. Donc, il tient la main de quelqu'un, et la personne, elle voit. Donc, la personne, elle est les yeux de l'aveugle. Ça va? Maintenant, c'est qui nos yeux? Mais c'est nos chachamim. Qui c'est nos yeux dans la Torah? C'est les chachamim. Qui c'est nos yeux dans la vie? C'est nos chachamim. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans les chachamim? Je sais pas si vous me suivez. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On comprend rien. Ouais, tu sais, c'est pas vrai. Écoute, j'ai quand même une licence d'anglais. Attends, j'ai un doctorat de mathématiques. Écoute, il a une chaire de pédagogie. Quand son fils fait des bêtises, il l'enferme dans un placard. Pendant 2 jours. Ça, c'est la chaire de pédagogie. Imagine s'il avait une chaire de la Gestapo. Qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est n'importe quoi. Il s'est marqué ici. Il dit les chachamim. C'est pas qu'ils fixent la réalité. Ils fabriquent la réalité. C'est toi, tu dis, mais enfin, des diamants, ça peut pas exister, des diamants de 10 mètres de haut. Mais en vérité, qu'est-ce qui t'empêche d'y croire? Parce que tu les vois pas. Maintenant que tu les as vus, tu y crois, tu es foutu. Tu es foutu, pourquoi? Parce qu'un homme qui ne croit que ce qu'il voit, il devient un tados. Parce que qu'est-ce qui le relie à l'essentiel? Qu'est-ce qui le relie au fondement? Ben, c'est sa croyance. Ben, c'est vrai, réfléchissez. Quelle est la différence entre un âne et un croyant? Ben, c'est le croyant, il croit. Facile à comprendre. Mais quelle différence entre un crapaud et un croyant? Parce que les deux... Bon. Oh, c'est marqué ici. Non, il y en a un des deux qui va en baver. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est une façon de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chachamim, quand ils donnent une réalité, tu vas avoir un gros doute maintenant. Est-ce que le chacham, il fabrique la réalité ou est-ce que le chacham, il t'indique c'est quoi la réalité? C'est pour ça que c'est marqué « Kol acholek alivre chachamim chayav mita ». Tout celui qui va contre les paroles des sages, il doit mourir. Ils disent les commentaires, c'est pas qu'il est puni, c'est pas que les rabbins ils sont nerveux et qu'ils vont tuer tous les gens qui sont contre eux. Non, c'est que la personne, quand elle comprend plus rien à sa vie, elle est morte déjà. C'est comme si toi tu dis « Vas-y, crève-moi les yeux, je vais faire le Paris-Dakar ». Tu sais que le mec il ira pas loin. Hein. Et pourquoi pas? S'il a de l'instinct. Oh, au moins l'instinct de survie, parce qu'il va rentrer dans un mur. C'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette capacité de voir, cette capacité de comprendre, de vivre les choses, elle dépend entièrement d'une certaine réalité. Mais cette réalité-là, elle n'est pas abordable. Elle n'est pas abordable. L'autre jour, j'ai fait le cours sur le temps. Bon, là, c'est un cours facile. Le cours sur le temps, c'est un cours dur. Moi, il m'a fallu 15 ans pour le préparer. Toujours, je me dis, mais comment un type qui écoute pendant 2 heures, il croit qu'il a compris? Mais comment? J'ai des gens, Talmidei Chachamim, qui connaissent tout le Talmud par cœur, ils ont écouté ce cours 100 fois. 100 fois, ils ont écouté le même cours. Et l'autre, il sort du cinéma, il rentre, il s'assoit au cours, il écoute, il dit, tu sais, le cours sur le temps, il est bon. Et, ouais, il aurait pu écouter un cours sur le temps, c'était aussi bon pour lui. Au fond, qu'est-ce qu'il a compris de plus? Trois feuilles de laurier. Au fond. Alors c'est quoi cette idée de croire que quelqu'un il peut participer à une aventure intellectuelle simplement parce qu'il est assis pendant 2 heures? Alors je vous donne la logique. C'est qu'une personne, elle ne va pas forcément tout retenir. Peut-être même qu'elle ne va pas tout comprendre. Mais elle a un lien avec cette chose-là. Ce lien-là, il te donne un niveau extraordinaire. C'est quoi? C'est le lien de Emouna que tu entretiens avec la chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte en haut d'un gratte-ciel, il voit New York. Eh bien, il n'a pas acheté New York. Mais il a vu New York. Un enfant à qui tu donnes une grande ambition, il n'a pas encore atteinte, mais il l'a. Mais si un enfant, tu lui enlèves son ambition, t'es un nul, t'es un pauvre type, t'arrives à rien, elle dégage, c'est une pourriture. Le problème, à part le fait que tu l'as rendu brel, tu lui as cassé son ambition. Or maintenant, un homme, il s'accroche à quoi? À ses rêves. Si tu lui enlèves ses rêves, or qu'est-ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est une vision. Tu as une vision et tu t'accroches à cette vision. Qu'est-ce que c'est le chacham? Le chacham, c'est celui qui donne la vision à l'autre. Maintenant, l'autre, maintenant, il va pas faire 10 ans de Guémara et 10 ans de Kabbalah pour commencer à comprendre de quoi ça parle. Alors, il va écouter le cours. Quand il fait le cours, qu'est-ce qui se passe? Il a un éclairage. Cet éclairage, ça veut dire qu'il y a une sensation commune entre lui et l'enseignant. Peut-être de 2 secondes. C'est pas grave. Maspiclo. Parce qu'il a vu quelque chose. Vous comprenez ou non? Il a vu, il a senti quelque chose d'important. Il a senti qu'il se passait quelque chose d'important ici. Il dit, cette dimension-là, c'est la vision. Cette vision-là, elle ne peut passer que par la confiance. Que par la confiance. C'est pour ça que quelqu'un que tu ne respectes pas, quelqu'un qui t'a déçu, tu ne peux pas prendre de lui. Non seulement tu ne peux pas, mais en plus c'est interdit. Je ne peux pas. Je m'excuse. Je l'ai vu, il a embrouillé. Je ne peux pas. Je peux pas. Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire que non seulement que la réalité, elle est fixée par l'explication des Chachamim, non seulement que ce n'est pas la vision de la réalité seulement, c'est la réalité en elle-même, ouais. Mais après, il n'y a plus de limite. Cet après-midi, j'étais dans le TGV pour venir. Il y avait un juif qui était là, ça peut arriver. On a parlé, il a commencé à me parler de Rav Israël de Sarcelles, il était très proche de lui. Écoutez cette histoire, il m'a raconté cet après-midi, vraiment pour vous, elle est toute nouvelle. Je ne pense pas que vous la connaissez parce que... Il a dit qu'un jour... Rav Israël de Sarcelles, il a reçu Baba Shali chez lui. Baba Shali est venu chez lui. Et ce monsieur-là, il tenait un magasin de fruits et légumes qui est connu à Sarcelles. Et Rav Israël, il est très proche. Il l'a appelé, il lui a dit, écoute, il me faut des dates du Maroc, maintenant. Non, il a dit, amène-moi des dates du Maroc. Bon, c'était, disons, dimanche. L'autre, il a dit, écoutez, Rav, moi, je vais à Rungis le mercredi. Mercredi, sans faute, je vous amène des dates. Il dit, non, je t'ai dit, il faut les amener maintenant. L'autre, il dit, bon, Rav, écoutez, je travaille, ça, je suis pris, tout ça. Il a dit, amène-moi des dates du Maroc maintenant. Il a dit, bon, d'accord. Il a raccroché, il a dit, attends, les clients, la truc, la caisse, là, oh. Il a laissé tomber. Le lendemain, il a été acheter les dates, c'est mercredi, il a été venu les amener. Rav Israël, quand il l'a vu rentrer dans la salle, il a dit, allez, dégage, allez, casse-toi d'ici. Bah, va-t'en. Il n'a pas compris. Il a dit, Rav m'avait demandé les dates. Il a dit, je t'ai demandé hier, pas aujourd'hui. Mais moi, je croyais, c'est pareil, hier, aujourd'hui. Il a dit, écoute-moi bien, hier, il y avait Baba Salé chez moi. Il voulait des dates. Il voulait des dates. Tu aurais amené ces dates, tu n'aurais eu plus besoin de travailler toute ta vie. Il t'aurait fait une bracha, c'était fini. Et l'autre, le pauvre, il les a amenés le lendemain. Hec. Il a dit, non seulement que tu vas travailler maintenant, mais maintenant tu vas en baver pour gagner. Si vous allez dire, ah ouais, c'est exagéré. Je vous ai raconté l'histoire avec l'essence, avec Rabbi Baba Salé. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne jamais ou quoi? Un jour, Baba Salé, il devait aller trancher une loi dans une ville. C'était à 100 km. Il sort dehors, il voit un juif avec sa voiture. Il dit, toi, viens ici, tu vas m'emmener faire ça. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le Rav, il rentre. La jauge d'essence, elle était vide. Il a dit, écoutez, Rav, je vais juste prendre de l'essence et on y va. Il a dit, non, roule, on n'a pas le temps, allez, avance. Il roule, sans bord. La bouche comme ça. Hein. Il roule. Ah, écoutez, il n'y a pas d'essence. Allez, arrête. Quoi, arrête de regarder. Hein, roule. Il roule. Il arrive là-bas. Il dit, écoute, j'en ai pour 10 minutes. Ne coupe pas le moteur. Attends-moi ici. Je reviens, on repart. 10 minutes après, il revient. Il monte dans la voiture. Il dit, alors, on y va. Il dit, qu'est-ce que ça fait, bon? Il a dit, j'ai fait le plein. Il dit, Ahmad. Il a dit, si tu n'avais pas mis d'essence, cette voiture, elle aurait roulé toute ta vie. Sans faire le plein. Elle a déjà roulé 100 km sans essence. Elle peut rouler encore. Laisse-la rouler. Non! Pourquoi? T'as pas eu la Emouna. T'as pas eu la Emouna. Tu me commences à avoir l'émouna, mais c'est fou! C'est fou! Mais c'est l'émouna. Moi, un copain, moi, un Ashkenaz. Pour vous dire que j'ai des copains. Bon. En plus, il était très intello à l'époque, genre grande réflexion, rationnelle, communiste, philosophico, très loedo. Il est en Israël, quelqu'un lui dit va voir Mohamed Saleh. C'était à l'époque où Mohamed Saleh était vivant. Écoutez bien, il va avec le chauffeur, il va en taxi. Il roule sur la route de Netivot. La voiture. Elle s'arrête. Plein désert, c'est la route de Netivot. Plein désert. Et le chauffeur, un bon sfarad de chez nous, il parle avec lui dans la voiture. Il dit alors où tu vas aller? Il dit bah, je vais aller chez Mohamed Saleh. Ah bon, d'où tu viens? De France? Ah d'accord. Il dit alors le chauffeur, il dit moi aussi je vais chez Mohamed Saleh, je vais prendre une bracha. J'ai une bouteille, là, j'ai une bouteille d'eau, il me l'avait béni. Maintenant, elle est vide, je vais lui demander de. Je la remplis, je fais encore une bracha. Et lui, dans sa tête, il m'a raconté mon copain. Il m'a dit tu prends une bouteille, tu bénis la bouteille, tu bois de la bouteille, genre la bénédiction, elle est dans la bouteille. Il croyait pas, il c'était très bête. C'était... Ça, c'est vraiment l'opium du peuple. Écoutez bien, il me raconte, mon copain, Ashkenaz rationnel, de qualité. Le chauffeur, il dit, bon, ben, la voiture, elle est en panne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a fait comme ça, il a fait, ah, que je suis bête, je vais chez Mohamed Saleh, j'ai pas pensé. Il a pris la bouteille d'eau, elle était vide la bouteille, il restait des petites gouttes. Il a ouvert le moteur, c'est la Mercedes d'avant, vous vous rappelez les Mercedes d'avant, les longues là, qu'ils avaient en Israël. Il ouvre le moteur, mais dans les secs, elle fait la voiture. Il fait comme ça, il a eu trois gouttes, il fait comme ça, il ferme le capot, il dit, bisrout, Mohamed Saleh, ah! il démarre, et il roule. Jusqu'à aujourd'hui, l'autre, il s'en est pas remis encore. Tu dis, mais attends. Bon, on va dire. Disons que Mohamed Saleh, il est capable de faire des choses. Mais ce chauffeur de taxi, on ne le connaît pas. Je veux dire, s'il y avait un Mohamed Saleh 2 ou la 3, on le connaîtrait. Alors, quel lien il avait avec Mohamed Saleh, celui-là? Emouna. Une Emouna béton. La Emouna béton. Ça veut dire qu'il vivait comme ça, dans la Emouna béton. Ma mère m'a raconté, son père, elle recevait Baba David, le frère de Baba Saleh, et Niftar. Il m'a dit, on avait l'habitude, il venait chez nous pour faire la Iloula, on était très pauvres, il n'y avait pas de quoi, vous savez ce qu'il faisait? Il prenait une bouteille d'anisette, il mettait un chiffon autour, il servait pendant toute la soirée 400 personnes avec la même bouteille. Et à la fin de la soirée, à minuit, il enlevait le chiffon et la bouteille, elle était pleine. Et c'était comme ça tous les ans. Ils avaient l'habitude. C'est même pas, ils comprenaient qu'il y avait un miracle. Si toi, tu as l'habitude de voir ton frère qui marche au plafond, tu dis pas, oh, ben enfin David. C'est normal pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette émouna. Comprenez ou non? Donc la vraie question, c'est pas de dire, mais comment ils ont pu croire des choses pareilles? La vraie question, c'est comment ça se fait que toi, tu n'y crois pas? Comprenez ce que je veux dire ou non? Comment ça se fait que toi, tu n'y crois pas? Ah, mais tu sais, écoute-moi, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac, physique, chimie, rationnel, Darwin. Mais qu'est-ce que t'as gagné avec Darwin? Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que t'as marqué à gagner avec la physique, avec la chimie? Qu'est-ce que t'as gagné? T'as gagné quoi? Rien du tout. T'as même pas la Emouna dans ce que t'as appris. T'as même pas la Emouna dans tes professeurs. T'as même pas la Emouna dans ceux qui te représentent. Alors que eux, les pauvres, ils n'avaient rien appris. Ni un de chez ni un. Oui? Mais ils avaient une Emouna. Béton. Il n'y a pas de problème. Ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fin de compte, le degré d'émouna que la personne elle développe, c'est cette capacité de voir à travers les choses, de sentir à travers les choses. Mais non, t'as pas peur. Je lui ai déjà dit que la peur, c'est comment elle rentre en toi, la peur. Parce que t'as pas la émouna en toi-même. Comme t'as pas la émouna dans le bon Dieu, comme t'as pas la émouna dans ton père. Si tu crois pas ton père, mais t'es foutu. Ah, mais vous savez pas ce que j'ai vécu avec lui. Non, c'est ton père. Trouve 10%, 8%, 4% de bien chez ton père et accroche-toi à ça. Parce que si toi, tu détruis le lien avec ton père, pas de repère. Tu t'étonnes que le mec, il a fait 27 ans de thérapie alors qu'il a rejeté son père depuis le départ. Un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Le père, c'est le repère, c'est Midata Din, c'est la rigueur. La mère, c'est Midata Hamim. Maintenant, celui qui ne croit pas dans son père et sa mère, il est perdu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le côté, la valeur père-mère. Ils ont dit, non, ça, ce sont des notions morales qui ont été développées par des complexés catholiques. Nous, on n'a plus besoin ni du père ni de la mère. Ils ont détruit ensuite le respect du professeur. Une dame, quand j'étais à Miami là-bas, elle m'a dit, écoutez, Arben Chetrit, J'étais responsable de la délinquance à Paris pendant 25 ans. Et bien, tu sais ce qui s'est passé en 68. Quand on avait des enfants qui tournaient mal, on les amenait au tribunal pour enfants. Ils étaient suivis par un psychologue, ils étaient suivis par des responsables, ils étaient suivis. Il est né en 68. Maintenant, on disait à l'enfant, avant, on disait, bon, tu dois respecter, tu dois écouter, tu dois faire. Qu'est-ce qu'il disait le juge? Écoutez bien, elle m'a dit, quand j'ai vu ça, elle a dit, j'ai compris que la France était foutue. Quand on amène devant l'enfant, alors au lieu de lui dire, bon, écoute, maintenant, tu as fait cette bêtise, tu vas rentrer dans un truc disciplinaire, tu vas suivre un programme, tu vas être obligé de changer, on lui disait, on va essayer de voir qu'est-ce que l'enfant ressent. On lui pose la question, qu'est-ce que tu attends? Au fond, qu'est-ce que tu veux? Mais il a 11 ans. Il est perdu de chez perdu. Il attend d'avoir des repères. C'est toi le repère. Mais si le repère n'est plus un repère, bah l'enfant il est encore plus perdu. C'est pour ça qu'ils ont fait 68. Comprenez ou non? Maintenant ils commencent un petit peu à dire, oh vous savez, on a besoin comme ça de redonner des structures, un peu de rigueur, un peu de respect. L'autre maintenant il a mis dans son programme que dans les écoles il faut que les élèves ils se lèvent devant le professeur quand ils rentrent. Mais va dans une yeshiva, Yahmar. Va dans un cheder, ça fait 3500 ans que les élèves se lèvent devant le rav. 3500 ans. Pas maintenant, tu dis, je pense que ça serait important. Alors que maintenant, ils en sont à prendre un prof, à l'exploser la tête à 4 dans la cour de l'école. Ils en sont là. Maintenant, tu leur dis, hé les gars, faut respecter l'autorité. On va se lever. On va se lever. Ils sont, je sais pas, quelque chose qui ne va pas ici. Alors que toutes ces règles-là, ça n'est que des règles pour pouvoir préserver une relation qui va donner une valeur aux choses. C'est-à-dire que le Rav, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est la Torah qu'il y a dedans. Mais l'accès à cette Torah, elle dépend de la crainte du Rav, elle dépend de la confiance, elle dépend de la émouna que tu as, elle dépend du respect. C'est ça que ça dépend. Donc les règles qu'on a données dans la Torah, l'otation yamin ou small, c'est pourquoi? Parce que c'est très facile d'aller yamin ou d'aller small dans la vie. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, surtout en ce moment qu'il faut voter, oui. Mais la Torah l'a dit, l'otation ne t'écarte pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a développé chez ses enfants cette confiance, oui, cette confiance, vous savez, il y a un rave ce qu'il a dit. Bon, ne le prenez pas mal, hein. Il a dit, vous savez pourquoi la Shoah elle n'a pas touché l'Afrique du Nord? Parce que les gens d'Afrique du Nord, ils ont gardé la Emunat Chachamim. Les gens du Maroc, d'Algérie. Même quand quelqu'un était Mechaël le Shabbat, on dit, Yalorav, il avait peur. Mais les gens à l'Est, au Nord, quand ils ont pris l'émancipation et la réforme, ils ont dit, ah, la religion, ils ont enlevé la Emunat Chachamim. Mais Baba, le seul relais que tu as entre toi et le bon Dieu, c'est le Rav. Si tu ne respectes plus le Rav, il n'y a plus rien, il n'y a plus de relais. Allez, va chercher le courant maintenant. C'est très violent, mais c'est un qui l'a dit. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais c'est seulement de comprendre qu'il y a une logique. C'est qu'au fond, au fond, au fond, on a beau dire, oui, les rabbins, c'est pas normal. D'accord. Même moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est difficile, il faut trouver le rab avec qui ça colle. C'est vrai. Mais d'un autre côté, sans le chacham, mais tu rigoles, mais t'es perdu, je suis perdu. Mais tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Comme un enfant sans son père, il est perdu. Parce qu'il n'a plus de repères. Comme un homme en face d'Hachem, il est perdu. Donc en vérité, qu'est-ce que tu développes quand tu développes la confiance? Tu développes la confiance envers, c'est-à-dire tu développes une relation de foi entre toi et la personne qui est en face de toi. Maintenant, toi, tu crois à l'avenir, bah, tu développes la foi. Toi, tu crois dans ton père, tu développes la foi. Tu crois dans tes enfants, tu développes la foi. Tu crois dans ton couple, tu développes la foi. Tu crois dans ton rave, tu développes la foi. Et cette dimension-là, d'être capacité de fonctionner avec un truc qui est invisible, parce qu'encore une fois, la foi, ça se voit pas. Vous me suivez ou non? Mais ça peut être très puissant ou très faible. Mais toute la vie, c'est comme ça. L'amour dans un couple, ça se voit pas. Mais ça peut être très puissant ou très faible. L'amour entre les parents et les enfants, ça se voit pas. Mais ça peut être très puissant ou très faible. La relation entre toi et le bon Dieu, ça se voit pas. Mais ça peut être très puissant ou très faible. Donc le vrai problème, Rabotai, c'est pas de fonctionner avec des choses qui se voient, c'est d'apprendre à fonctionner avec des choses qui se voient pas. Maintenant, comment on appelle la capacité de fonctionner avec des choses qui se voient pas? On appelle la Emouna. Ça va? Ils disent les commentaires qu'à la fin des temps, toutes les mitzvot vont devenir secondaires par rapport à une mitzvah prioritaire qui va être l'Emouna. À l'époque du Mashiach, le plus dur, ça sera d'avoir l'Emouna. Ça veut dire que toutes les mitzvot, ça sera facile de les faire. Regarde, réfléchissez. Au Moyen-Âge, tu voulais manger des matzot à Pessah. Tu étais brûlé vif. Ils avaient des gardiens de l'Inquisition qui repéraient les gens qui achetaient des herbes amères la veille de Pessah pour les tuer. Étudier la Torah, c'était considéré comme un blasphème. Mettre les téphilines, c'était pratiquement impossible. Aller dans un mikvé, il fallait casser la glace ou aller dans l'oued là-bas caché. Les mitzvot, c'était très très dur. Oui? Tu voulais manger une viande cachée, il fallait faire 40 km là-bas, jusqu'au rang pour retrouver de la viande. Mais, la Emouna, c'était facile. Au Moyen-Âge, on ne compte pas la liste des pogroms où les gens ils se sont jetés dans un bûcher plutôt que transgresser Shabbat. Ils avaient une Emouna. Il y a eu des pogroms et le lendemain, ils reconstruisaient leur famille. Il y avait des massacres et le lendemain, ils continuaient à mettre les téphilines. Aujourd'hui, quelqu'un il perd les clés de sa voiture, il dit « Ah, demain, je ne mets pas les téphilines. » Dieu, il ne m'aime pas, il m'a oublié. Avant, le mec, il perdait sa femme et ses enfants dans un pogrom. Le lendemain, il mettait les téphilines à la prière. Il disait « Dieu a donné, Dieu a pris. » Et il continuait la vie. Pourquoi? Parce qu'avant, les mitzvot, c'était très dur, mais la Emouna, très facile. Ça va? La tendance s'est inversée. Aujourd'hui, tu payes 300 euros, tu as des tefillines qui sont de meilleure qualité que les tefillines qu'il avait Rashi. Rashi, vous avez entendu parler de Rashi? C'est un grand tzaddik. Il avait des tefillines bidons. Les tefillines que nous, on ne donnerait pas au chien du voisin, il les avait lui. Pourquoi? Parce que Rashi, il dit dans un commentaire, il dit, il faut faire attention quand on met les téphilines, de ne pas tirer trop fort sur la lanière, de peur de déformer le carré des téphilines. Vous savez, le carré, il est dur. Pour le déformer, c'est impossible. Maintenant, lui, ces téphilines, ils étaient tellement mous que quand il tirait sur la lanière, ça déformait le carré. Parce que nous, aujourd'hui, on a des techniques, on a des presses hydrauliques, des presses pneumatiques très très fortes. On arrive à presser la peau de la bête pendant des mois pour lui donner un aspect tellement dur. Mais eux, ils n'avaient pas des presses aussi bonnes. Donc, ils avaient des tefillines bidons. Les tefillines pourries que tu veux même pas les mettre, ils les mettaient Rashi. Ça va? Mais quand Rashi met les tefillines, et quand toi, tu mets les tefillines, va voir. Ça va, les mouna. Les titiotes, aujourd'hui, vous regardez les gravures du Moyen-Âge. La tronche qu'ils avaient, les titiotes, ils disent, c'est pas possible, c'est quoi ce truc-là? Nous, on a des titites élastiques, solides, bonne qualité, de folie. Pour 50 shekels, t'as une bombe atomique. Avant, ils avaient des cordes, des ficelles, du chanvre. Aujourd'hui, tu mets une cache-route. Quelle propreté, quelle finesse, quel truc. La qualité du couteau. Regarde les couteaux qu'ils avaient. C'était du métal. Pour avoir une cache-route, c'est compliqué. Chaque chose. Aujourd'hui, les mitzvot, c'est facile. C'est facile. Tu veux manger cachère au Tibet. Il y a un Beit Chabad, tu t'assois, il y a un cachère. Tu veux faire le CDR de Pessah à Katmandou. C'est organisé. Tu veux recevoir un repas cachère là-bas, en haut du Kilimandjaro, c'est possible. Il y a une compagnie à New York qui te livre dans les 24 heures, n'importe où dans le monde, un repas cachère. La cache-route, c'est facile. Les mitzvot, c'est facile. Mais la Emouna, très très dur. Avec le chapeau, avec la barbe, avec la perruque. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Les gens, ils ont peur. Tu dis, mais comment t'as volé? J'ai eu peur de manquer. Mais t'as pas des moulins. Comment t'as triché? Comment t'as embrouillé pour ce chidour? Comment t'as cassé cet enfant-là? Comment t'as détruit ça? T'as pas des moulins. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des moulins et il y a des grandes mitzvot? Ça va? Il est pressé. Quelle heure il est? Ah oui, je suis limite. Je finis dans 5 minutes. Et tu te détends, sinon il va attraper une nervosité. C'est la lumière contre l'interrupteur, la guerre. D'accord. Abotai, je vais vous dire la logique. C'est marqué qu'à la fin des temps, la mitzvah principale, ça sera la Emouna. Or, le terrain d'application de la Emouna, c'est quoi? C'est que chaque mitzvah, elle a un terrain d'application. Par exemple, la mitzvah de la prière, elle a un yitzhara, c'est quoi? C'est la déconcentration. Puisque la mitzvah, c'est de se concentrer. D'accord? La mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Donc c'est quoi le Yetzer Hara? De lire vite. La mitzvah de l'honnêteté, c'est de recalculer, de vérifier. C'est quoi l'interdit? C'est de donner sans calculer. D'accord? Donc tu vois quoi? Ça veut dire que chaque mitzvah, elle a un terrain. Maintenant, la mitzvah, c'est la emouna. C'est quoi le terrain de la emouna? Le balagan. Le fouillis. Avant, c'était facile. Avant, il y avait les goyim et les juifs. Après, ils t'ont dit, attention maintenant, il y a les juifs et les juifs. Après, ils t'ont dit, il y a les juifs religieux, les nuchons non religieux. Après, ils ont dit, il y a les juifs sionistes religieux, les juifs sionistes non religieux. Après, ils t'ont dit, il y a les juifs religieux contre les juifs non, qui sont religieux, mais pas comme eux. Après, il y a ce groupe-là contre ce groupe-là. T'es perdu. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit, à la fin des temps, tous les vieux chachamim, ils vont mourir, il va rester que des jeunes. Et chaque jeune, il va dire, c'est lui qui a la vérité. Vas-y, va chercher. Sais pas si vous sentez que c'est en train d'arriver. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous enlève nos grands rabbinim? Vous comprenez ou non? Où ils sont, ces grands rabbinim? Où ils sont? On avait des lumières. Où ils sont? Ils partent. Pourquoi ils partent? Parce que, Baba, comment tu vas grandir? Comment tu vas évoluer? Si à chaque fois, la lumière, elle remplace ton effort. Donc Dieu, il veut que tu arrives à voir clair dans le noir. Le noir de la vie, c'est quand on éteint la lumière. Le noir de la Emouna, c'est quand on enlève les repères. Alors ça s'appelle en français le sens de l'orientation. Vous prenez votre voiture. Un soir, vous sortez de la ville, vous roulez en dehors de Marseille, vous roulez 50 km, vous arrivez dans un village. Le village, vous savez comment ça se passe? Avant le village, il fait tout noir. Après le village, il fait tout noir. Vous êtes dans le village, il y a juste trois ou quatre lampadaires qui sont ouverts sur la place de la mairie. Vous allez en bordure du village. Il y a le dernier lampadaire, juste au-dessus du panneau, Serge Giffey et les Brondilles. C'est un bled. Vous arrêtez la voiture. Vous fermez, vous éteignez les phares. Et vous vous éloignez de la voiture. Vous avancez dans les champs. Il fait noir. C'est qu'à la campagne, il fait noir, noir. Noir, noir. Ça va? Vous marchez comme ça pendant 1 heure, au bout d'une heure, vous dites où je suis. Il n'y a pas de repère. Ça s'appelle en français le sens de l'orientation. Vous allez dire, attends, je suis venu par là, j'ai toujours marché droit, je me rappelle, il y avait le petit buisson sur le côté. J'essaie de te repérer dans le noir. Comment on appelle la capacité de se repérer dans le noir? Là, le sens de l'orientation. Au niveau spirituel, on appelle la Emouna. Maintenant, si toi, tu as développé, pendant que tu avais des chachamim, pendant que tu avais ton père et ta mère, pendant que tu avais des gens de confiance en face de toi, tu as développé cette capacité de voir dans le noir. Alors même quand les repères seront plus là, le sens de l'orientation, tu l'as gardé. Comme si eux, non? Exactement pareil. À l'école, vous faites des maths, des maths, des maths, des maths, puis un jour, la vie, c'est une équation. Il faut décider. Mais déjà, si tu as triché pendant les maths, le jour où elle se pose l'équation de la vie, t'es perdu. C'est pareil maintenant. T'as une femme, elle est belle. Mais ta femme, aujourd'hui, elle est belle, demain, elle sera moins belle. Donc en fin de compte, le temps de la beauté, c'est le temps que tu as pour apprendre à l'aimer malgré qu'un jour, elle sera plus belle. Mais si toi, tu l'aimes que sur le côté extérieur, le jour où elle est moins belle, tu dis, ah, tu sais, c'est plus comme avant. Mais toi aussi, t'es plus comme avant, Yahmar. Donc, en fin de compte, le temps de beauté, c'est un temps d'apprentissage pour apprendre à aimer la personne. Donc, ton rav, c'est une relation de Emouna que tu as pour apprendre à aimer Hachem. Tes parents, c'est pour apprendre à craindre Dieu. Donc, tu crées, tu développes un sentiment invisible avec des personnes visibles. Le jour où tu n'auras plus les repères, c'est pas grave. Parce que le sentiment, la capacité d'orientation, tu l'as développé chez toi. T'as compris ça ou non? Donc nous, on éduque nos enfants pour que si Dieu veut, ils n'auront plus besoin de nous après. Parce que pour que ton fils à 35 ans, il t'appelle pour te dire, papa, qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, tu dis, je suis fier, Hachem, il a besoin de moi. D'un autre côté, tu dis, mais c'est un handicapé, ce mec-là. La bracha, c'est d'être autonome. C'est pas d'être dépendant. Donc maintenant, comment tu vas faire? Alors tu dis, mais comment c'est possible? Nos enfants sont dépendants et on veut leur apprendre l'indépendance. Eh bien, c'est très simple. Quand tu les éduques, ils sont dépendants de toi. Mais toi, tu les pousses à quoi? À devenir indépendants. Donc, ce que tu leur demandes, ce n'est pas de faire ce que tu veux, c'est de faire ce qui est bien pour eux. C'est une notion qui est abstraite. Ça leur donne un lien avec l'essentiel. Celui qui a développé le lien avec l'essentiel, même quand il est dans le superficiel, il va garder le lien avec l'essentiel. Maintenant, nous sommes dans un monde de superficiel, de haut niveau. Même les représentants politiques sont devenus des clowns. Donc, la plus forte raison que les clowns sont des clowns. Que l'information, elle est complètement débile. Que l'ambiance, elle est à côté de la plaque. Que les conflits n'ont plus de sens. Que les guerres, elles sont débiles. Que l'économie, elle ne fonctionne pas. Même la nature, elle ne marche plus. En hiver, il fait chaud. En été, il fait froid. Les océans montent. La glace, elle baisse. Le monde est fou. Pourquoi le monde est fou? Parce que maintenant, Hachem, il va demander au peuple juif, as-tu atteint ton niveau de maturité? Est-ce que je peux te lâcher dans le monde du balagan? Or, puisque la mitzvah de Imouna, elle devient prioritaire, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut l'appliquer. Alors, à Botay, aujourd'hui, bon, Hachem, on a encore des repères. D'accord? On a encore des repères. Mais bientôt, ça sera fini tout ça. Il n'y aura plus de repères. La synagogue, ça sera une boîte de nuit. Là. Il y a une synagogue à côté de Paris. Ils ont renvoyé le rabbin et ils ont nommé un nouveau comité parce qu'il, pour éviter chas v'shalom une dérive vers l'orthodoxie. Et je vous promets que dans cette synagogue, il n'y a pas 10 shomer shabbat. Il n'y en a pas 10. Quand je devais aller parler là-bas, que moi je suis un des plus cools de France, ouais, ils n'ont pas voulu, ils ont dit il est trop religieux. Imaginez que ça doit être si Rav Pinto ou Rav Shach, il va venir parler là-bas. Ils vont mourir. Ils vont faire... Ça, c'est la synagogue de l'avenir, à Botay. N'ayez pas peur. Dans nos écoles, on attrape des choses bizarres. Ambiance, ouais. Dans la rue, on attrape des choses bizarres. Sur Internet, on achète... Comment tu vas faire? Je me suis foutu. Tu veux dire ça? Je vais aller m'installer en Australie. Je vais m'installer en Israël. Là-bas aussi. Ah, je vais m'installer à New York. Là-bas aussi. C'est plus géographique. C'est plus physique, c'est plus très ludique, c'est plus... Ah, comment tu vas faire? Ah, Botay, c'est normal. Puisque Dieu, il enlève le repère, c'est pour te dire, ben, il va te rester une chose. L'aïmouna. Or, tant que ta femme est là, tu apprends à aimer la personne de ta femme. Alors, tant que les chachamim sont là, apprends à aimer Hachem à travers les chachamim. Parce que le jour où les chachamim seront tous cinglés, et un plus fou que l'autre, il va te faire rentrer dans sa secte, est-ce que tu seras capable de dire, non, j'attends ma chiar, vraiment? Ou tu vas devenir fou. Tu vas rentrer dans une secte de fous. Tu vas être capable ou non? Encore une fois, on n'en est pas là. Parce qu'on peut encore étudier, il y a encore des endroits, il y a encore des chachamim, il y a encore des halakhot. Mais plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Encore une fois, pourquoi? Pas parce qu'on est condamné à vivre des horreurs. C'est parce que pour qu'un homme passe un examen, il passe en état de... Il est instabilisé, il est déstabilisé. Et après, il devient mature. Vous me suivez ou non? Eh bien, l'examen... Pour atteindre la maturité de l'humanité, c'est-à-dire Mashiach, ça va être très déstabilisant. Puisque examen, ça veut dire quoi en français? Ex, extérieur, âme. C'est ce qui fait sortir l'âme. Donc pour que l'examen de l'humanité il se passe, il va falloir qu'on soit mis en instabilité. C'est quoi la période d'instabilité? C'est Mashiach. Est-ce qu'à l'époque du Mashiach, les gens ils vont garder la Emouna ou ils vont s'affoler? Ils vont avoir confiance en bouche ou en Dieu? Ils vont mettre les tefillines le matin ou ils vont acheter un abri anti-atomique? Ils vont manger kasher, oui? Ou ils vont mettre des croix partout? Chacun devant sa question. Il dit cette dimension. Là, à Botay, vous avez compris. Le but, c'est d'arriver à la confiance en Dieu. Mais pour arriver à la confiance en Dieu, il faut apprendre la confiance de ses parents, la confiance de ses enfants, la confiance de ses amis, la confiance de ses ennemis, la confiance de ses enseignants, la confiance des rabbanim pour arriver peut-être à la confiance en Dieu. Mais si quelqu'un il s'enferme dans l'individualisme, qui veut rien faire, qui veut s'enfermer, qui veut pas comprendre, qui veut pas construire, qui veut pas développer, qui veut pas épanouir, celui-là, baba, il va souffrir. Pourquoi? Justement par manque de repères. Donc Hachem, il fasse qu'on ait la capacité de développer cette confiance chaque jour. C'est vrai que c'est un travail de chaque jour. Et d'arriver à développer. Et comment on le sait qu'on acquiert la confiance en soi? Parce qu'on acquiert la confiance de ses enfants. Et comment on sait qu'on a acquis la confiance en soi? Parce qu'on a la confiance de son conjoint. Et comment on sait qu'on a la confiance de la Torah? Parce qu'on a la confiance de son Rav. Alors celui qui a atteint ces trois niveaux de conscience, il va atteindre la confiance avec Hachem. Et c'est ça qui va le délivrer à l'époque du Mashiach. Alors juste une chose, je vous annonce que il y aura le gala du Kollel Birkat Mordechai le lundi 14 mai à 20h au Florida Palace avec la présence exceptionnelle du Rav David Hanania Pinto Shlita. Et vous pouvez vous inscrire, mais je pense que vous avez eu des papiers comme ça?
Oui.
Donc je vous encourage à à aider ce Makom Torah pour qu'il y ait encore plus de Torah à Marseille. On va demander que le cours soit dédié pour tous les malades d'Israël et en particulier pour Avraham Shimon ben Simcha, Simcha bat Flecha, Eliyahu ben Aisha, Shmuel ben Rachel, Yeshua ben Simcha, Rav Chai Amram, Solange bat Blanche, Rav Pesner, Rav Azimov, Rav Yosef Chaim ben Simcha Citru, Ariel Sharon, Yosef ben Belara, Mahlouf ben Amou, Eliyahu ben Aisha, Yitzhak ben Aisha, Arav Mesaoud ben Esther. Qu'Hachem leur envoie à tous une réfouchée demain parmi tous les malades d'Israël. Est-ce qu'on connaît la date du prochain cours?
Non.
Bon, moi non plus. Alors, soyez à l'écoute des radios, des affiches et ailleurs.
Justement, je disais, c'est bien le
village. Et Nathalie, quand c'est qu'elle vient?
Ben?
Votre femme, elle vient quand? Elle devait venir.
Elle devait venir, on ne sait pas.
Ah, et pourquoi, vous savez pourquoi elle n'est pas venue?
Elle est fatiguée.
Ah, mais ça va?
Ouais, bon, fâché. Ah.